20h, RTL, bonsoir. Avec Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
Allez, bienvenue à tous, RTL, bonsoir, c'est maintenant. On est ravis de vous accompagner jusqu'à 20h avec votre équipe adorée, préférée, adorable, Cyprien Signy, Isabelle Choquet, Peggy Broche, les facétieux, Marc-Antoine Lebré, Alex Vizorek. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir à tous.
Dans 10 minutes, Marc-Antoine, quelle voix dans le Breaking News?
Hanouna, mon chéri. Ça va être magnifique, voilà. Gros témoignage dans un instant.
La visioconférence dans une demi-heure, Alex.
Alors, ça va vous passionner à parler des européennes?
D'accord. Les autres rendez-vous à retenir ce soir, nos invités à 18h15, l'événement Que s'est-il passé à Montpellier? Samara, 13 ans, a été tabassée à la sortie du collège. Harcèlement, jalousie, rôle de la religion, plusieurs hypothèses sur la table. Le gouvernement réclame une enquête et la maman de Samara se confie sur RTL et on va tout vous expliquer.
À 18h40, 15 voitures volées chaque heure en France. Quel modèle, quelle méthode, quel bandit? Un spécialiste décrypte ces chiffres fous.
Et après 19h, la deuxième heure d'RTL, bonsoir. Qu'est-ce qu'on ressent lors d'une sortie dans l'espace, lors du décollage d'une fusée? Philippe Perrin, spationaute, notre grand invité, va nous répondre. C'est l'un des 10 Français seulement à avoir vécu en apesanteur.
Il y aura aussi de la cuisine, de la musique et puis cadeau, un week-end en famille au Futuroscope à gagner dans le grand quiz de RTL Bonsoir. Mais là, tout de suite, c'est le journal. 10 minutes pour tout savoir.
RTL Bonsoir.
À la une, Isabelle.
Une star sous curatelle. La justice vient de se prononcer sur le cas Delon. Les poils Tefal sauvés par les députés. Et puis les favoris du tour à terre. Vingegaard est à l'hôpital après une terrible chute sur le tour du Pays Basque. Mais il est conscient.
La tendance météo demain.
Avec encore quelques pluies et des nuages sur la moitié nord et du soleil dans le sud.
Le journal, Julien Cellier, Isabelle Choquet.
Et c'est donc un nouvel épisode dans le feuilleton Alain Delon. La justice vient de placer l'acteur sous curatelle renforcée.
Il était déjà placé sous sauvegarde de justice depuis fin janvier, ce qui signifie qu'un mandataire l'assistait dans ses choix médicaux. Mais cette mesure n'était que provisoire en attendant l'audience d'aujourd'hui à Montargis. Bonsoir, Pladin Radenovic.
Bonsoir.
Vos informations sont donc confirmées, c'est une mise sous curatelle renforcée.
Oui, selon nos informations, la justice vient en fait de valider ce qui a été décidé en secret lors d'une réunion de famille à Douchy, au domicile d'Alain Delon début mars, la mise sous curatelle renforcée est apparue alors comme la meilleure solution aux trois enfants. Il s'agit d'une mesure civile de protection de l'acteur de 88 ans. Contrairement à une mise sous tutelle, on considère qu'il possède toujours son consentement éclairé, ce sont les termes de la justice, donc on lui laisse une certaine autonomie, sauf en ce qui concerne ses ressources financières, car la curatelle n'est pas simple, mais renforcée. Donc aujourd'hui, la justice a statué. Les enfants d'Alain Delon et leurs avocats ont quitté discrètement le tribunal de Montargis sans faire de déclaration par une porte dérobée pour échapper aux caméras. Le procureur de Montargis, de son côté, n'a pas souhaité communiquer pour expliquer davantage cette décision. En effet, les décisions civiles sont censées être privées, enfin, sauf quand il s'agit d'Alain Delon.
Merci, information RTL signée Plana Radenovic.
Toujours beaucoup, à la fois d'émotions et de questions après l'agression de Samara à Montpellier.
Cette jeune fille de 13 ans a été tabassée mardi à la sortie de son collège par tout un groupe de jeunes, à tel point que son pronostic vital a été engagé. Ce soir, elle est hors de danger, mais le gouvernement se saisie de l'affaire. Emmanuel Macron lui a apporté son soutien et la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, ordonne une enquête.
Nous devons la vérité à Samara, à la famille et bien sûr à notre institution. J'ai effectivement décidé dès demain qu'une inspection générale irait sur place pour une mission flash. Cette mission aura pour objet à la fois d'établir la réalité des faits et d'établir les responsabilités. Je donne 8 jours de travail et dans 8 jours j'aurai les éléments dont je tirerai toutes les conséquences. Et je puis vous assurer que mon bras ne tremblera pas.
La garde des Sceaux au micro du groupe Altice. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Montpellier, Patrick Tégéraud. Bonsoir Patrick.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Pourquoi une enquête, Patrick? Qu'est-ce qu'il faut éclaircir?
Eh bien, il y a 2 points au moins à éclaircir. D'abord, la prise en compte du harcèlement de Samara depuis des mois, depuis même son entrée au collège. Vous l'entendrez dans quelques instants, sa maman a dénoncé l'an dernier un harcèlement via les réseaux sociaux. Une collégienne avait créé un faux compte Snapchat au nom de Samara avec un appel au viol. La maman avait saisi la gendarmerie qui avait réagi trop tard, le compte avait disparu. Elle avait alerté aussi le collège et là, la jeune harceleuse avait été exclue 2 jours. Alors, on connaissait les soucis de Samara, mais la nouvelle principale arrivait depuis quelques mois seulement, l'ignorer. Et puis, il y a le dysfonctionnement de mardi. Le professeur principal de la classe de Samara remarque un groupe devant le collège. Il va les voir, il identifie des élèves hostiles à Samara. Il prévient sa maman, qui appelle la vie scolaire 2 fois pour demander qu'on empêche Samara de sortir avant son arrivée. Mais Samara va sortir. Les surveillants avaient changé. La consigne n'avait pas été passée. Et une fois de plus, la principale n'était pas informée. Le rectorat devait communiquer aujourd'hui. Eh bien, ce n'est plus d'actualité.
Merci beaucoup, Patrick Tégéraud. Vous l'avez dit, la maman Amande Samara. Vous l'avez rencontrée longuement, elle s'est confiée à votre micro. Ce document RTL, vous allez entendre, chers auditeurs, dans une dizaine de minutes maintenant, à 18h15, la maman de Samara qui s'exprime. Et puis avec Patrick, avec Maxime Lévy, notre spécialiste justice, on va essayer de comprendre ce qui s'est exactement passé mardi autour du collège. Pourquoi une telle agression? Harcèlement, jalousie, rôle de la religion? On va poser toutes ces hypothèses sur la table du studio. 18h05, les députés bannissent les polluants éternels, mais ils ont sauvé les poils Tefal.
Oui, ils ont adopté cet après-midi une proposition de loi qui va limiter la fabrication et la vente de produits à base de PFAS, ces substances chimiques présentes dans nos vêtements, nos cosmétiques et nos poils en téflon. Mais les ustensiles de cuisine ont finalement été exclus du texte. Petite déception chez les écologistes comme Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire.
On voit bien qu'il y a eu du poids pour que ça fasse pencher la balance sur ce seul sujet. Les industriels, d'une façon générale, nous disaient nous sommes prêts, la Fédération française de ski a dit allez-y, le tissu dit allez-y, McDonald's a déjà supprimé les PFAS dans ses emballages. Évidemment, on peut regretter que ça ne soit pas dans le texte. Pour autant, sur le reste, on avance. Sur la cosmétique, on avance. Sur le tissu, on avance. Sur les emballages, on avance. Ça, qui l'aurait dit il y a 2 ans? Donc on est déjà assez content de ça. Et évidemment, il faudra mener la bataille demain, autrement, sur les ustensiles de cuisine.
Propos recueillis par Marie-Bénédicte Thaler. Alors il faut dire qu'hier, les salariés de SEB, la maison mère de Tefal, ont manifesté contre cette loi. Ils étaient inquiets pour leur emploi. Ce soir, évidemment, ils sont soulagés. Écoutez Riyad Boulassel du syndicat Force Ouvrière.
L'article de loi, comme il était écrit, donc c'était interdit à la vente, à la production, à la fabrication, l'importation, l'exportation. À partir de là, on a donné la définition de « on ferme la boîte ». C'était clairement la perte sèche de nos emplois. Il faut pas mettre en opposition emploi et écologie. Il y a soulagement, mais il y a quand même, on reste sur le pied de guerre parce qu'on sait que ça va continuer. Mais par contre, on ne se taira plus maintenant.
Un propos recueilli par Célestin Bougère.
Direction maintenant Lyon, toujours sous les eaux avec des villages inondés, des champs aussi.
Oui, le département est repassé en vigilance orange crue comme l'Aube, mais le niveau de l'Armançon reste élevé et l'eau ne s'est pas retirée partout, clairement. Les champs, les cultures sont inondées. Mathias Luguin, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL sur place, bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Vous avez rencontré un agriculteur assez désemparé.
Oui, sur la commune de Joigny, où la rivière a tellement débordé qu'on ne peut plus la distinguer de la parcelle d'Antoine dans laquelle elle s'est déversée. De l'eau jusqu'aux genoux, l'agriculteur de 22 ans me montre ce qu'il reste de ses cultures.
Là, c'est une parcelle d'orge brassicole, ouais, destinée à faire de la bière, et qui n'en fera peut-être pas vu l'état du champ. Si ça descend dans 1 ou 2 jours, je pense que ça occasionnera pas trop de dégâts. Surtout que la crue arrive au mois d'avril, c'est-à-dire 2 mois et demi, 3 mois avant la récolte. Là, on a déjà mis de l'engrais, on a déjà traité, donc c'est d'autant plus de pertes, quoi.
20 des 200 hectares d'Antoine sont noyés, soit 10% de sa production. Un manque à gagner compris entre 15 et 20 000 euros.
On aura peut-être une petite indemnité assurance, mais ça couvrira pas la perte, quoi. J'ai déjà fait une déclaration ce matin, ouais. Donc il y a un expert qui passera, constaté. Là, je suis au plus haut niveau pour le moment en crédit, comme je suis installé depuis 2 ans. Ça ne va pas lui faire du bien non plus, quoi.
Depuis le pic de la crue la nuit dernière à Joigny, le niveau de l'eau n'est redescendu que de 5 cm.
Mathias Luguin, envoyé spécial d'RTL dans Lyon.
La suite du journal, c'est avec
Vingegaard, double vainqueur du Tour, à l'hôpital après une chute sévère au Pays Basque.
Et puis préparer les zygomatiques, on va les muscler avec notre imitateur Marc-Antoine Lebray, qui arrive ce soir au programme, les voix de 3 présidents de la République et celles d'un certain Cyril Hanouna. Et puis après 18h30, toujours plus d'humour avec Alex Vizorek, bien entendu, vous restez avec nous.
RTL, bonsoir. RTL, bonsoir.
Julien Cellier, Isabelle Choquet.
Allez, 18h10, RTL, bonsoir, continue. Et on en vient à cette chute extrêmement spectaculaire sur le Tour du Pays Basque. C'est du cyclisme, tous les favoris des grands noms du cyclisme à terme.
Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, qui avait déjà chuté hier, ce sont les meilleurs cyclistes du moment et nous sommes à moins de 3 mois du Tour de France. Bonsoir Baptiste Durieux.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
La course a été neutralisée. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'abord?
Une terrible chute collective qui est survenue à 30 km de l'arrivée de la 4e étape du Tour du Pays Basque dans un virage en descente, vitesse élevée et freinage tardif. Et bien c'est une chute à l'avant du peloton qui a entraîné le dérapage de plusieurs coureurs vers le bas-côté. Ils ont percuté des blocs de pierre et un drain de béton au bord de la route. Primoz Roglic, Remco Evenepoel ou encore Jonas Vingegaard sont donc concernés. Les 3 ont abandonné. La course a été neutralisée puis relancée.
Et comment ils vont ?
Alors Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, hein, on le rappelle, est gravement touché. Il a été évacué sur civière avec une assistance respiratoire, une Minerve direction l'hôpital. Il est conscient, confirme son équipe, et va passer des examens. Remco Evenepoel est touché à la clavicule droite, hospitalisé également, tout comme Primoz Roglic. Un autre coureur également, l'Australien Jay Vine, est resté très longtemps immobile sur le sol, allongé dans un fossé. Lui aussi est parti en ambulance. Il est conscient. On ne connaît pas encore la nature précise, hein, des potentielles blessures. Et puis au final, seuls les 6 échappés vont donc se jouer la victoire de cette triste étape.
Merci Baptiste Durieux du service des sports d'RTL. Et puis un mot des Jeux Olympiques. Malgré les menaces d'attentat, Emmanuel Macron a redit ce matin que la cérémonie d'ouverture sur la Seine restait le scénario privilégié. Et il a été interrogé, le président, sur la participation éventuelle d'Aya Nakamura. Ah. Écoutez sa réponse. Ah.
C'est une artiste qui est, je prends pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails. Mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Et parce que ces Jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler.
Emmanuel Macron au micro RTL de Morad Jabari.
Emmanuel Macron qui inaugurait le centre aquatique de Saint-Denis, centre qui va accueillir certaines épreuves des JO. On va vous le faire visiter dans un quart d'heure dans RTL Inside. Vous allez l'entendre, c'est assez spectaculaire. Et puis vous allez l'entendre aussi lors
de... Ça vaut son pesant de cacahuètes.
Lors de l'inauguration, il y a un plongeur qui a connu une grosse gamelle. Vous avez vu l'image?
Voilà, j'ai glissé, chef.
On va tout vous raconter. Allez, le temps, s'il vous plaît, demain, Peggy.
Encore gris sur la moitié nord, mais avec moins de pluie. On a une nouvelle perturbation qui va arriver et qui va concerner le nord-ouest du pays le matin avec de faibles pluies. Sur le reste de la moitié nord, le ciel sera plus ou moins voilé. Dans le sud, on aura du soleil avec quand même quelques grisailles vers le Languedoc-Roussillon et le pourtour méditerranéen. Ces grisailles, elles vont se dissiper et il y aura beaucoup de vent également. Hein, du vent sur la Méditerranée, la vallée du Rhône, l'Occitanie, les Pyrénées, et des rafales jusqu'à 80 km/h. Donc la moitié sud sous le soleil et au nord de la Loire, la perturbation, elle va gagner les régions entre la Bretagne, l'Île-de-France jusqu'au Grand Est, et seul finalement l'extrême nord retrouvera quelques éclaircies puis de faibles pluies, hein, dans tout ça, mais vraiment rien à voir avec aujourd'hui. Côté température, elles sont en hausse de 17 à Brest, à 28 degrés à Biarritz demain, 26 à Bordeaux, 23 à Toulouse, 22 à La Rochelle et Marseille, 21 à Perpignan, 20 à Orléans, 19 à Paris, 18 à Montpellier, et je rappelle que Lyon et l'Aube restent en vigilance orange cru.
Merci Peggy. Vous le savez, après le journal, il y a un journal très inattendu. Ah oui. C'est celui de votre imitateur Marc-Antoine Lebray. On y va, c'est parti pour Lebray.
Monsieur le Président, vous avez inauguré ce matin le centre aquatique des JO, on en parlait, et vous avez confirmé votre volonté de vous baigner dans la Seine.
Tout à fait. J'ai la volonté de me baigner dans la Seine, tout comme j'ai la volonté de combler le déficit. La volonté de résorber le chômage, ou la volonté de remplacer mes cours de Photoshop par des cours de boxe. Mais ça ne veut pas dire que je vais forcément y arriver. On a tous des volontés. Monsieur Cellier, de gravir l'Everest en criant « Merde !» Monsieur Cini, de mettre un eagle.
Ah oui.
Enfin, un birdie. Ouais. Bon, un par.
Bon, ça va.
Et Madame Choquet voudrait que Julien et Cyprien aient des rêves un peu plus foufou.
Ça serait bien, ouais.
Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut.
Effectivement. Le Gaillegate, maintenant, le célèbre scooter de François Hollande, va être vendu aux enchères parmi des objets de valeur, des œuvres d'art.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je crois que les amortisseurs ne sont pas en super état, mais le reste nickel. Prix de départ, 10 000 euros. Mm. C'est un peu cher pour un scoot de 2012, mais c'est un peu comme une œuvre d'art, car en bonus, vous avez un moulage de mes fesses sur la selle. En plus, il a très peu de kilomètres au compteur. Je l'utilisais pour des trajets courts. Élysée, Gaillac, AFC. Le triangle magique. Monsieur Cilly, ça vous intéresse?
Non, c'est bon, merci.
Vous pouvez l'utiliser dans le dos de votre femme pour aller faire des parties de golf?
Ah bah oui, golf, alors, mais non.
Bonjour, c'est Lycée Moon. Bienvenue dans le nouvel opus des petites annonces. Merci. Après Mercedes et Janine, voilà Mercedes et Piaggio. Donc, si tu recherches le scooter d'un président à forte poitrine, tu m'intéresses, hein?
À Paris, un tunnel artisanal a été découvert en direction de la prison de la Santé. Et pour en savoir plus, on va se tourner vers notre spécialiste police-justice.
Bonjour, ici Nicolas Sarkozy. En direct de l'intérieur du tunnel de la prison de la Santé.
Ah, donc vous êtes carrément à l'intérieur, Nicolas Sarkozy.
Bah, il va pas se creuser tout seul, ce tunnel, hein. Je vais vous prévenir que guérir, même si je suis innocent, hein. Enfin, ouais. Pas encore coupable. Attendez, Creusez plus vite là-bas. Oui, merci. Pardon, je parle aux Balkany. Ils ne sont pas faciles à gérer. Hein. Ils veulent absolument creuser un deuxième tunnel jusqu'à la BNP.
Merci, monsieur le président.
Quelle indécence.
Cyril Hanouna, vous êtes donc revenu sur l'affaire d'Emile dans TPMP. Ouais. Comment ça s'est passé, cette émission?
Salut, mes petites beautés. Ça va, mes chéris? Oh, bébé. Oh, j'adore, Cyprien. Bon, comme je disais hier, mes chéris, on devait recevoir la randonneuse pour nous expliquer pourquoi elle a fait la bêtise d'apporter le crâne à la gendarmerie, mais elle n'a pas pu venir, mes chéris. Elle vient de retrouver le corps de Delphine Jubilard. Elle est partie l'amener au commissariat. C'est magnifique! Ensuite, on a voulu interviewer le Saint-Hubert, mais mauvaise nouvelle, avec les projecteurs, le Saint-Hubert a fondu. Deuxième mauvaise nouvelle, avec les projecteurs, Afida Turner a fondu aussi. Voilà. Mais là où on a beaucoup appris, mon Julien, mon Cyprien, Isabelle, c'est avec la venue de l'aigle, voilà, qui s'appelle Norda le Land Aigle. On va réécouter, les chéris, l'interview traduite par son cousin Faucon Gilles Vervais. Bon, malin l'aigle, il vient de dire. Moi, on me croit incapable d'avoir enlevé un gosse. Non, mais en tant qu'aigle, j'ai mal à ma France d'aigle. Vous auriez dû me demander, moi, je l'avais vu depuis le début. Je suis pas un gros nulos comme les drones de la gendarmerie. Merci. Comme vous voyez, Nordal-Lelandais s'est défendu bec et ongle. Expliquez cela ou pas, on adore. Ouais, grâce à nous, je pense que l'affaire est résolue. Voilà, les chéris, demain, on se penchera sur le dossier du petit Grégory. Il avait été retrouvé noyé dans une rivière. Et avec l'équipe, on vous expliquera pourquoi on pense que le coupable, c'est un saumon.
Merci
frère,
Cyril Hanouna.
Frère, parlez innocent.
Comment vous voulez reprendre après
intenable.
Ça complètement intenable, Marc-Antoine Lebray. Merci Marc-Antoine.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy. RTL Bonsoir.
Et on en vient maintenant dans RTL Bonsoir à l'événement du jour. C'est une affaire qui saisit évidemment tous les parents, les grands-parents qui nous écoutent. L'agression ultra-violente de Samara, 13 ans seulement, à la sortie de son collège à Montpellier cette semaine.
Sa maman se confie, c'est un document RTL. Et avec nos spécialistes, on va chercher à comprendre pourquoi la jeune fille a été tabassée.
RTL Bonsoir. Bon. RTL Bonsoir, Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
18h20, RTL Bonsoir, et l'événement, c'est donc cette agression ultra-violente qui suscite émotion et réaction, y compris au sommet de l'État. Emmanuel Macron apporte son soutien à Samara.
D'abord, je veux vraiment avoir un mot de solidarité pour cette jeune fille, pour sa famille. Il n'y a rien qui justifie qu'il saurait faire accepter le fait qu'une jeune fille, une adolescente, est ainsi agressée par plusieurs jeunes de son âge.
Samara, 13 ans, a été grièvement blessée cette semaine à la sortie de son collège à Montpellier. Son pronostic vital a même été un temps engagé.
Samara a été tabassée par un groupe de personnes. 3 ados ont été interpellés.
Alors, harcèlement, jalousie, rôle de la religion, que s'est-il exactement passé lors des semaines, des mois derniers? La ministre de la Justice, vous l'avez entendu un petit peu plus tôt dans le journal, Nicole Belloubet, lance une enquête. Et nous, ce soir, on va essayer de mieux comprendre cette affaire parce qu'elle interpelle évidemment les parents, les grands-parents qui sont en train de nous écouter avec nous, Maxime Lévy de notre service police-justice. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Et Patrick Tégéro à Montpellier pour RTL. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Patrick, vous avez rencontré ces dernières heures la maman de Samara après le calvaire vécu par sa fille. Assiba s'est longuement confiée à votre micro. On l'écoute.
Elle a eu une hémorragie cérébrale suite à ces nombreux coups qu'elle a reçus au niveau notamment des méninges. Enfin, c'est l'endroit où, voilà, qui a été le plus impacté. Et puis voilà, des traumatismes crâniens, puis des contusions dans le corps. Elle s'est réveillée tout à l'heure, elle m'a dit « Maman, j'ai mal là ». Voilà, ça, c'est un peu tout le corps. Elle était au sol, elle était inconsciente, on continuait à la tabasser. Quoi. C'est tabassé. Est-ce qu'il va y avoir des séquelles? Est-ce qu'elle va être psychologiquement très atteinte? Voilà, elle est très affectée. J'ai peur maintenant. J'arrive même pas à anticiper l'avenir. En fait, c'est pas possible. Je me dis, ben, ma fille, je peux pas la laisser comme ça. En fait, j'ai peur pour elle. J'ai peur pour son avenir, pour tout.
Ça s'est passé pratiquement sous vos yeux, d'ailleurs.
En l'espace de 15 minutes, j'avais demandé au collège de la garder à l'intérieur de l'établissement. J'ai appelé à 2 reprises. Le prof principal est au courant. Il a essayé d'éloigner les personnes qui étaient présentes pour l'attendre. Et en fait, au final, ils ont attendu de midi et demi jusqu'à 16h que ma fille sorte de l'école pour en venir à bout avec elle. C'était un appel sur les réseaux sociaux à venir s'en prendre à ma fille. Heureusement qu'une passante a lui apporté secours. Elle a récupéré le temps que j'arrive, elle a été très courageuse et voilà. Donc je me dis jusqu'à où ça aurait pu aller en fait. Ils ne sauraient pas arrêter en fait. Ils auraient même vu. Elle était inconsciente, elle a perdu connaissance à un moment au sol, ils ont continué à la frapper à la tête. Ah, on m'a expliqué que son crâne a tapé à plusieurs reprises contre le bitume, on entendait limite les bruits de voilà, c'était trop dur.
C'est terrifiant ce que vous me
racontez. Il y a beaucoup d'élèves qui étaient très choqués.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de responsabilité aussi dans ce système des réseaux sociaux ?
Oui, oui. N'importe quel jeune, à partir même de 10-11 ans, a un réseau social. C'est trop... Il faudrait quand même que ça soit bien encadré quand même. Ouais. Bien encadré. Pour moi, j'ai l'impression que cette jeune fille était jalouse de ma fille. Elle
ça
était
vient
jalouse.
D'une seule personne, seulement.
C'est une seule personne qui a manipulé la majorité des autres élèves et pour que Samara soit leur souffre-douleur.
Vous avez fait des signalements.
Oui, j'avais contacté au moment où cette jeune fille avait créé un compte Snapchat à ma fille avec sa photo, avec un appel au viol. J'avais contacté la gendarmerie de Saint-Georges-d'Orque et qui m'avait conseillé de contacter une plateforme. Le souci, c'est que cet élève a supprimé le compte 2 jours après. Mais voilà, le mal, il était fait. Ça a tourné de partout. Et au final, il ne pouvait pas retracer l'adresse IP. Et le collège a pris la décision de l'exclure 2 jours pour la sanctionner. Ce que je trouve un peu faible, mais peut-être ça lui aurait servi de leçon d'être peut-être évincé du collège pendant un long moment. Plus jamais ça, en fait. Plus jamais ça. J'espère que ça aura un retentissement pour que plus jamais aucun enfant, plus autant de violence. Et vraiment, j'espère que vraiment il y aura une justice pour ma fille.
Plus jamais ça. Assiba, la maman de Samara, à votre micro, Patrick Tégéraud pour RTL. On va essayer de mieux cerner maintenant à la fois les causes, les conséquences de cette agression.
Maxime Lévy, déjà combien de personnes ont été interpellées et quel est leur profil ?
Alors, 3 mineurs ont été interpellés, 2 garçons de 14 et 15 ans, dont un déjà connu des autorités, et une fille de 14 ans. Tous les 3 sont toujours entendus en ce moment dans les locaux de la police judiciaire de Montpellier et en garde à vue pour tentative de meurtre sur mineur. On sait que la jeune suspecte a reconnu en audition avoir porté des coups à la victime. C'est ce que explique le procureur de Montpellier. On sait également que les enquêteurs cherchent à savoir si d'autres personnes ont frappé Samara. D'autres interpellations pourraient donc avoir lieu. Par contre, ce que l'on ne sait pas pour le moment, c'est si ces 3 jeunes interpellés sont tous du lycée Arthur Rimbaud de Montpellier où est scolarisée la victime. Il est possible que des jeunes de l'extérieur soient venus participer à l'agression.
Alors Maxime, la maman de Samara évoque le rôle des réseaux sociaux. C'est confirmé ça par les enquêteurs ?
Eh bien, ce qu'explique la mère de Samara, c'est qu'un faux compte au nom de la victime aurait été créé sur Snapchat. Un compte où aurait été diffusée une photo de l'un de ses harceleurs, notamment affublé d'oreilles de lapin. En clair, la mère de la victime explique que ce compte aurait été créé pour lui nuire. Pour le moment, nous n'avons pas eu de confirmation de la part de nos sources sur l'existence de ce compte. Il faut rester assez prudent, même s'il paraît avéré que Samara subissait du harcèlement scolaire, aussi bien au niveau de sa famille, de son collège ou de ses camarades. Des élèves hostiles à la jeune collégienne avaient été signalés et identifiés.
À un autre micro, la maman de Samara explique que sa fille a été insultée de mécréante, qu'elle a peut-être été agressée parce qu'elle ne portait pas de voile. Patrick, quid de cette hypothèse ?
Mais vous savez, après avoir longuement discuté avec des collégiens de ce collège Arthur Rimbaud, bien dans la bouche des ados dits de mauvaise réputation, qui sont agressifs et bien mécréants, c'est une injure, au même titre que prostituée, pour parler sobrement par exemple. Et puis la grand-mère de Samara me le disait hier, sa petite fille est très jolie, jolie au point de susciter des jalousies, en particulier celle d'une collégienne qui a fait de Samara sa tête de turc depuis qu'elle est dans cet établissement, et il semblerait que ce soit la jeune fille interpellée hier matin. Des collégiens aussi m'ont confié que l'on avait monté des réputations sur Samara, c'est-à-dire de faux comptes de réseaux sociaux. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails que vous avez expliqué, Maxime, tout à l'heure, mais les réseaux sociaux ont exacerbé tout cela. Hein. Et puis, cette dernière manipulation aurait provoqué donc un hashtag appelant à agresser Samara. Les collégiens m'assurent que tout cela n'a rien à voir, par contre, avec la religion et relève tout simplement de la plus triste des bêtises.
Alors, Patrick, la garde des Sceaux lance une enquête. Est-ce que les autorités du collège ont failli ? Est-ce que la question se pose ce soir ?
Bah écoutez, on l'évoquait au début du journal, on ne comprend pas pourquoi dans cet établissement de quartier difficile, théoriquement sensibilisé au harcèlement, on n'a pas plus pris en compte les soucis de Samara. La rectrice l'évoquait hier, la principale de l'établissement n'était au courant de rien, ni des problèmes de Samara avant, ni ce qui s'est passé mardi après-midi. L'attroupement devant le collège, la consigne d'empêcher Samara de sortir, qui a été oubliée. Samara est donc tombée dans un piège évident. C'était un peu la chronique d'une agression annoncée, et cela aurait pu être bien pire.
Enquête lancée par la ministre de l'Éducation et non de la Justice. Toutes mes excuses, Nicole Belloubet. Merci Patrick Tégéro à Montpellier. Merci beaucoup Maxime Lévy pour ces tout derniers éléments après l'agression de Samara, 13 ans, à la sortie de son collège à Montpellier. RTL Bonsoir qui continue maintenant avec votre RTL Inside.
RTL a visité le centre aquatique des Jeux, tout neuf, tout beau, c'est à Saint-Denis, mais il n'accueillera pas la natation.
Et puis la visioconférence avec Alex Vizorek. Le programme, Alex.
Non, on va pas parler que des Européennes, ah. Je vais parler aussi de Viagra.
À tout de suite.
RTL Bonsoir, jusqu'à 20h.
Ce dimanche, avec la super tirelire de 2 millions au quintet plus du PMU, ça va être super.
Ah bah t'as dit deux fois super.
Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux.
Ah là, t'as dit trois fois super.
Bah oui, mais je vais le dire encore, ça va être un super moment.
Ouais, bon, en vrai, je vois pas d'autre mot.
Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au quintet plus. PMU. Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur...
RTL, s'informer ensemble.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier, Isabelle Choquet.
Allez, 18h31, RTL, bonsoir, continue. Avant Alex Vizorek, avant RTL Inside à la piscine ce soir, on vous rappelle les trois infos à retenir, Isabelle.
Alain Delon, placé sous curatelle renforcée, c'est moins restrictif qu'une tutelle. La justice considère que l'acteur possède toujours son consentement éclairé, sauf en ce qui concerne les décisions financières. Les députés adoptent la loi anti-PFAS, ces substances chimiques présentes partout dans notre quotidien, mais les ustensiles de cuisine ne sont pas concernés, les fameuses poêles Tefal sont donc sauvées. Le double vainqueur du Tour, le Danois Vingegaard, hospitalisé mais conscient après une lourde chute sur le Tour du Pays Basque. Evenepoel et Roglic sont tombés aussi. Et puis je vous signale à l'instant le forfait de Rafael Nadal à Monte Carlo.
Ah là là, Rafael Nadal forfait, ça c'est dur pour vous Peggy, ça c'est un coup dur juste avant de nous donner la tendance météo pour demain.
Oui, avec une nouvelle perturbation, alors surtout nuageuse, mais qui donnera de faibles pluies sur le nord-ouest le matin et au nord de la Loire l'après-midi. Dans le sud, on a encore du soleil.
RTL Inside.
Allez, RTL Inside, tous les soirs, les reporters de RTL en immersion au cœur de l'actu. Ce soir, on enfile le maillot de bain.
Et pour un plongeon dans le bassin olympique, Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui le centre aquatique de Saint-Denis. C'est là qu'auront lieu les épreuves de plongeon, de water polo et aussi de natation synchronisée.
Bonsoir Mourad Jabari.
Bonsoir.
Vous y étiez à cette inauguration. C'est visiblement un ouvrage absolument incroyable.
Oui, posé au milieu d'une forêt de béton, en face du métallique Stade de France, un toit ondulé en forme de vague, une image renforcée par les reflets de lumière grâce aux panneaux photovoltaïques qui recouvrent ce toit en bois. C'est la plus grande charpente du monde en bois, grande de 90 mètres, et son bassin à l'intérieur a les bords et le fond modulables, un édifice qui fait la fierté du président Macron.
Il y a une grande chaîne humaine qui a permis de réaliser ce centre. Et donc ici, on verra dans 120 jours maintenant, le water polo, le plongeon, la natation artistique. Et on va accueillir le monde dans ce lieu totalement nouveau. C'est exemplaire d'un point de vue environnemental. Alors merci à toutes et tous. Vive la République, vive la France et vive nos Jeux Olympiques et Paralympiques.
Alors, pas de ruban rouge pour inaugurer cette piscine, mais un buzzer, une légère pression du président qui a déclenché un spectacle en musique, une démonstration délivrée par les équipes de France de natation synchronisée, de water polo et de plongeon.
Et alors, là où c'est bon, c'est qu'au cours de ce spectacle, bah, il y a eu un petit accident. Un plongeur s'est pris une gamelle, Mourad.
Monumental. On peut déjà lui décerner, en revanche, la médaille d'or de l'autodérision. Cette cabriole, ce plongeon mal maîtrisé a été réalisé par Alexis Gendard, vice-champion du monde quand même par équipe de plongeon. Il a tout simplement chuté du plongeoir. Il est tombé à la renverse un peu n'importe comment et il le reconnaît et il en rigole sur Instagram.
Bon allez, il est l'heure, je prends la parole parce que avec ce qui s'est passé, je crois que vous avez envie d'un petit débrief. Sachez une chose, c'est que j'ai glissé. Alors j'ai pas glissé, mais j'ai une petite faiblesse sur la jambe, ça m'a fait chuter. J'ai chuté devant le président, j'ai chuté devant la France entière. Et puis amusez-vous, c'est le moment de me vanner parce que là franchement je mérite de ouf.
Des explications accompagnées d'une photo de ses égratignures dans le dos, accompagnées de la musique du film La 7ème Compagnie et de l'inscription J'ai glissé chef.
Formidable. On est à fond avec lui pour les JO.
Alexis Janda, oui, que l'on va retrouver, il est qualifié pour les JO.
Et alors, Morad, pourquoi les épreuves de natation, elles ont lieu ailleurs, pardon?
Ah, parce que cette piscine est trop petite, elle peut accueillir 5000 spectateurs, alors que la Fédé internationale de natation réclame 15000 places pour des compétitions de niveau international. En fait, une piscine olympique coûtait trop cher, ils ont donc décidé de réduire la taille et la facture. Le coût du centre olympique aquatique est de 188 millions, un coût qui dépasse quand même le budget prévisionnel. Mais résultat des courses, la natation en ligne va donc se dérouler à l'Arena La Défense de Nantes. Deux bassins provisoires seront aménagés le temps des JO. Ouais. Et donc, à ce jour, la France ne possède toujours pas de bassin olympique.
Et après, le centre aquatique, il va devenir quoi?
Alors, une fois la flamme olympique éteinte et un an de travaux, la piscine sera toujours là, mais il y aura en plus des terrains de foot, de basket, de padel, un mur d'escalade et un restaurant, un espace ouvert aux habitants de la Seine-Saint-Denis à petit prix. En tout cas, c'est une promesse, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour le 93. C'est le département le plus pauvre de France, le moins bien doté. Par exemple, un enfant sur deux en classe de 6e ne sait pas nager.
RTL Inside ce soir, signé Morad Djabari après l'inauguration de ce centre aquatique donc de Saint-Denis. Merci Morane.
RTL Inside.
18h36 minutes.
J'ai perdu, Klaus.
Madame la députée, ne jetez pas l'eau propre.
Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
Allez, le voici, Alex Vizorek, vous l'attendiez. Carte blanche maintenant à notre humoriste préféré. Alex, aujourd'hui, vous souhaitiez démarrer en nous parlant d'Europe Écologie Les Verts.
Bravo. Oui, parce que c'est pas tous les jours que je commence par eux. Hein.
Non,
ça vous a pas échappé.
C'est même la première fois.
Mais c'est peut-être la première fois. Julien Bayou, voilà, après avoir été mis en retrait pour violence psychologique, puis réintégré. Mais Sandrine Rousseau avait critiqué son retour. Là, bon, il a démissionné d'Europe Écologie Les Verts, mais il reste député. J'espère que vous suivez. Mais déjà, ils ont pas beaucoup de voix. Europe Écologie Les Verts. Donc, je pense que le plus malin serait été de dire de faire deux courants, EELV et EELV. Alors, je vois bien que vous ne comprenez pas. J'aurais fait Europe Écologie Les Verges, dirigé par Julien Bayou, et Europe Écologie Les Vulves, dirigé par Sandrine Rousseau.
Alors, alors,
je me permets parce que sur Twitter, Sandrine Rousseau, elle a dit qu'elle aimait l'humour belge. Je ne sais pas pour combien de temps.
Politique encore pour les Européennes. Après une absence remarquée lors du premier débat des têtes de liste, Jordan Bardella du RN va également sécher le prochain.
Oh. Et oui, et pourtant, on était tous comme des fous à l'idée de regarder cette soirée sur France 4 et RFI. Ça tombe le 10 avril. Aïe. Oui, il y a PSG Barcelone, mais on est des passionnés d'actu. Donc on a choisi. Et alors oui, il n'y aura pas Jordan Bardella, mais vous inquiétez pas, Manon Aubry et Valérie Ayé, évidemment, seront là. J'ai envie de les appeler les Mbappé et Lewandowski de la politique française. Alors mais pas Jordan Bardella, que beaucoup critiquent. Alors oui, mais est-ce que c'est pas la manière la plus honnête de se présenter, puisque il a prévu de faire en cas de victoire aux européennes la même chose, c'est-à-dire à savoir être absent du Parlement européen. Donc je pense que c'est cohérent.
Jordan Patrella. Wow. Les mauvaises langues
appellent
comme ça.
Pas mal.
Oui, mais c'est de l'actu.
Droit d'auteur.
International, à l'occasion de la rencontre entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et Emmanuel Macron, le ministère des Affaires étrangères américain a posté sur Twitter une carte de l'Europe avec une petite erreur.
Et vous l'avez vu, la petite erreur?
Non,
il a confondu la Suisse et la Suède.
Ah
oui, mais ça se joue à rien. Hein. C'est bon. Après, est-ce qu'on peut vraiment blâmer l'Amérique pour son niveau en géographie? Elle a été découverte par Christophe Colomb, qui au départ visait l'Inde. Donc, si vous voulez, ça part sur un malentendu.
C'est scandaleux. Oui. Inde, justement.
Oui.
Ah bah, quelle transition.
Et oui, c'est malin.
Les élections approchent et un candidat un peu particulier s'y présente.
Eh oui, bon, vous pouvez pas suivre toutes les politiques, mais moi je le fais. Monsieur Padmarajan, un Indien de 65 ans, est très heureux de se présenter à cette campagne, malgré les 238 défaites électorales qu'il a déjà.
C'est possible.
Et il se présente encore et il dit j'ai la certitude de perdre aussi aux législatives.
Non.
C'est le 19 avril, on va le suivre, on va espérer qu'il va lui arriver quelque chose de positif. Mais moi, je trouve ça beau, c'est un modèle de vie. Le gars, hyper, il revient. C'est un peu le François Bayrou indien.
Je voyais venir.
Il vient de loin.
Santé à présent. Oui. La tête des enfants dépend de ce que leur mère mange pendant la grossesse.
Et ouais, c'est une étude. Alors,
Genre, ils sont beaux ou ils sont laids?
La taille de la tête. Enfin, au départ. Pour Franck Ribéry, il a mis du sien aussi, si vous voulez. Mais non, cassez pas le décor. Mais en fait, des chercheurs ont réalisé qu'un régime hautement protéiné favorise l'apparition d'un visage plus proéminent que la moyenne, tandis qu'une quantité limitée de protéines mènera à des visages plus fins, aux traits plus discrets. Voilà, du coup, je sais pas exactement ce qu'a mangé la mère des frères Bogdanov, mais elle a dû s'envoyer des entrecôtes avec double omelette au camembert en accompagnement.
Allez, people, maintenant, un acteur de Plus belle la vie est accusé d'avoir agressé un chauffeur de bus à Marseille.
Oui, voilà, il a donc été mis en garde à vue. Alors, ça dure en général 24 heures, mais peut-être prolongé si l'infraction concernée est punissable par une peine d'au moins un an, et si le procureur de la République veut le poursuivre, il sera renvoyé devant le tribunal en étant placé sous contrôle judiciaire jusqu'au jugement entre 10 jours et 6 mois plus tard.
Pourquoi vous expliquez tout ça?
C'est un acteur de Plus belle la vie. C'est sans doute la première fois qu'il est confronté à une trame qui est entièrement logique. Il n'a pas l'habitude, je préfère être pédago.
Une brève internationale désormais en Angleterre. Elle se réveille un beau matin en parlant avec un accent étranger et elle a dû quitter son travail.
Il y a une dame qui s'est essayé de maladie, ça arrive parfois, vous réveillez le matin et vous avez un accent.
Parler flamand.
Avec un accent de votre langue. C'est-à-dire que quand il a lu cette info, Éric Zemmour n'ose plus dormir. Imaginez un matin en parlant comme Michel Leeb qui fait l'Africain. Mais oui, mais
ça serait drôle.
Ça change la donne. Hein. Ça va faire bizarre les meetings où il aura les propos de Pétain mais la voix de Bokassa. Hein, ça va être quelque chose.
Allez, une bonne nouvelle pour terminer, oui, pour tous nos auditeurs.
Eh oui, parce qu'on va pas se mentir, RTL n'a pas l'auditorat le plus jeune de la FM. On est entre Champ de France et Radio EHPAD. Donc, cette info va vous faire plaisir. Écoutez bien, selon une nouvelle étude, le Viagra pourrait être efficace contre Alzheimer. Je le dis fort, parce que comme ça, personne ne la loupe. C'est génial, le Viagra peut être efficace contre Alzheimer, mais c'est super, parce que ça veut dire que si on en prend, à partir d'un certain âge, on se souviendra de pourquoi on bande. Et ça, ben oui, mais c'est un vrai plus.
Voilà, c'est deux en un, la petite pilule bleue en quelque sorte. Voilà. Merci pour cette visioconférence, cher Alex.
RTL, bonsoir.
Et puis les rendez-vous à venir après 19h. On va accueillir un spationaute ici dans ce studio. Philippe Perrin va nous raconter sa conquête de l'espace, les sorties en scaphandre dans le grand vide, la fusée qui décolle, c'est Objectif Lune comme si vous y étiez.
En attendant, on reprend le fil de l'actu. Une voiture volée toutes les 4 minutes en France, c'est dingue. Quel modèle? Quel voleur? Comment se protéger? On va tout vous dire.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy. RTL Bonsoir. Julien Cellier. RTL Bonsoir jusqu'à 20h.
Allez, bonne fin de journée. On en vient maintenant, étendez l'oreille si vous nous écoutez au volant de votre voiture. On en vient à nos invités pour tout comprendre.
Tout comprendre au vol de voitures qui continue d'augmenter pour la deuxième année consécutive en France. Écoutez bien ce chiffre. 15 voitures sont volées toutes les heures en France. Oui, 15 voitures chaque heure.
Et pourtant, elles sont bardées aujourd'hui de technologies. Alors, comment c'est possible? Quelles sont les marques les plus à risque? Comment s'en prémunir? Pour tout nous expliquer, on accueille Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote. C'est vous qui nous révélez ces chiffres. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également notre spécialiste auto à RTL, l'incontournable Christophe Bourou. Bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous.
Alors on va d'abord faire le point avec vous Christophe. Combien de voitures sont volées chaque année en France?
140 400 véhicules volés l'an dernier. C'est 15 par heure effectivement, ou une toutes les 4 minutes. Bon, ça donne vraiment une idée. Surtout ciblée, alors les grandes agglomérations, Île-de-France, Hauts-de-France, région PACA. Mais fait nouveau, cette hausse des vols se retrouve dans des départements jusqu'ici moins touchés. Plus 20%, par exemple, dans le Calvados, les Landes, l'Indre ou encore le Morbihan.
Est-ce que les voleurs ont des marques ou des modèles préférés?
Alors, les Françaises ont vraiment la cote. En tête, la Clio. Ah ouais. Devant une autre Renault, la Mégane. Puis les Peugeot 3008 et 308. Et enfin, le Toyota RAV4.
Et pourquoi ces marques-là particulièrement?
Alors, c'est très simple. C'est le principe de l'offre et la demande. C'est les voitures les plus vendues. Donc, c'est les voitures les plus volées. Il y a aussi des pièces détachées qui se revendent facilement. Avec un intérêt de plus en plus fort pour les véhicules à la mode, devinez,
les SUV.
Les SUV, plus 62% de hausse pour les vols de SUV.
Alors qu'ils pourront plus se garer, ça n'a plus aucun sens de les voler.
Comment on vole des voitures remplies de technologie? On n'ouvre plus les portières avec des ceintures à l'ancienne.
Ah bah non, ça c'était, c'était à l'ancienne. Alors d'ailleurs, c'était...
Non, pardon, moi sur ma voiture, il n'y a même pas de poignée, je vois pas comment on peut me la voler.
La Twingo, c'est comme ça qu'on l'a volée, et pendant 10 ans, elle est restée la voiture la plus volée en France. Aujourd'hui, c'est terminé, elles sont bardées de technologie. Pour entrer dans une voiture, c'est très compliqué. Simplement, ils ont trouvé des astuces, les voyous. La première astuce, la plus simple pour entrer, ils vont pirater les ondes émises par les clés de votre voiture. Quand vous sortez de votre voiture, vous appuyez sur votre porte-clés, ça fait pip, pip.
Ouais. Vous le faites bien.
Et là, je le fais très bien. Seulement, il y a une personne qui est juste à côté de vous et qui va, avec un appareil qu'ils achètent sur le Darknet, sur le, on va dire le marché noir d'Internet, un brouilleur d'ondes, et il va réussir à capter
le signal.
Le signal et rentrer dans votre voiture. C'est-à-dire que, concrètement, vous ne vous en rendez absolument pas compte puisque ça a fait bip bip.
On va faire ses courses et quand on revient, il n'y a plus de voiture.
Voilà. Et
c'est comme se faire voler ses clés.
Exactement. Et une fois à l'intérieur, ils ont un ordinateur. Je vais pas donner trop de détails, mais ils vont se connecter sur la voiture, sur l'ordinateur, sur le cerveau de la voiture. Et en une minute, allez, c'est démarré. Il n'y a pas d'effraction. Donc les voitures se vendent plus cher.
On peut se protéger de ces vols?
Oui. Alors, pour moi, les systèmes, c'est les plus simples. Par exemple, pour les clés, une toute petite astuce, vous mettez vos clés dans du papier aluminium. Oui, ça paraît tout bête, mais ça fonctionne, ça évite, et évidemment, le piratage. Alors, on vous vend des systèmes. Oui, voilà. On le met dans un petit papier aluminium et ça fonctionne. Ça évite de brouiller, de capter le système.
On peut quand même fermer, c'est ouvrir sa voiture ou
oui,
faut enlever
on peut quand même le faire. Mais alors, il y a aussi le plus basique, je trouve, et le plus efficace, c'est le bon vieux bloc volant. Vous savez qu'on trouve dans le commerce, c'est pas sexy, ça coûte une quarantaine d'euros. Ça n'a pas empêché le vol de voiture, mais ça dissuade parce qu'il faut longtemps pour l'enlever. Et puis, vous avez aussi maintenant, ce qui est à la mode, le traceur GPS, c'est-à-dire que vous avez un mouchard dans votre voiture qui permet de suivre en temps réel où se trouve votre voiture, ainsi on va retrouver votre voiture dans 9 cas sur 10, ce qui est quand même pas mal. Là, il faut payer quand même un abonnement, une quinzaine d'euros par mois par exemple, et puis faire installer ce traceur qui coûte à peu près une centaine d'euros.
Prévenir son compagnon ou sa compagne quand même avant d'installer le traceur.
Oui, ouais, vaut mieux.
C'est mieux ça.
On se tourne vers vous, Stéphane Curtelin de chez Coyote. Elles deviennent quoi ces voitures qu'on vole? On les retrouve ou pas?
Alors, dans notre cas, c'est vrai qu'on en retrouve quand même un certain nombre avec justement ce système de traceur, plus de détectives. Nous, aujourd'hui, on en retrouve plus de 9 sur 10 en 48 heures.
Donc, ah voilà, oui.
L'an dernier, c'est 43 millions d'euros de véhicules, l'équivalence retrouvée. Et qu'est-ce qui nous remonte ces détectives quand ils interviennent justement sur le terrain? Ils nous remontent plusieurs types d'informations. C'est-à-dire que, comme vous venez de l'évoquer, on a 9 cas sur 10 de vols qui sont faits de façon électronique. Alors, ça ne dégrade pas les véhicules physiquement, ils sont pas endommagés. Donc, on peut les restituer quand on peut intervenir rapidement, les restituer aussi rapidement. Et qu'est-ce qu'ils deviennent ? On repère des filières organisées de garages clandestins qui maquillent les véhicules pour les revendre sur le marché de l'occasion. Donc là, ça peut rester en France. Nos détectives sont aussi, au cours des mois qui viennent de passer, sont intervenus en Espagne, en Belgique, en Allemagne, donc sur des pays limitrophes. On vend aussi bien du véhicule volé, malheureusement. Et parfois, c'est un peu plus loin, ça va jusqu'en Europe de l'Est, voire aussi parfois en Afrique du Nord.
Ce sont des individus isolés, les voleurs, ou alors on a affaire à des bandes qui sont hyper organisées, hiérarchisées?
Sans rentrer dans tous les détails, nous ce que l'on constate, c'est que c'est forcément organisé parce qu'ils répondent à des demandes marché. Quand on intervient, parfois on découvre pas un véhicule, mais une demi-douzaine d'autres véhicules autour.
D'accord.
Parce qu'il y a bien un véhicule qui est équipé du Coyote Secure, mais autre... autour, il y avait d'autres véhicules qui ont été victimes du même réseau. Donc ça nous amène à penser, par rapport à ce que nous remontent justement ces détectives, c'est que ce sont des filières organisées, alors avec plus ou moins avec des tailles variées, mais en effet il y a une organisation.
On parlait des voitures volées, on a des marques françaises, des Clio, etc. Ça sert pas à faire des go-fast pour transporter de la drogue, quoi. C'est pour les revendre en fait. C'est un marché parallèle qui existe.
Dans la plupart des cas, c'est vraiment de la revente, alors soit du véhicule intégralement, soit aussi de la pièce détachée. Ça peut aussi arriver. Et les go-fast, c'est vraiment marginal.
Oui, parce que la pièce détachée, les prix de la pièce détachée, c'est ce qui a augmenté le plus l'année dernière, plus que l'inflation, deux fois plus que l'inflation. Donc les pièces détachées sont hyper recherchées dans l'automobile.
Donc c'est un marché parallèle, ouais. Effectivement. On y voit beaucoup plus clair, en tout cas, sur ces chiffres complètement fous. Une voiture volée toutes les 4 minutes dans notre pays. Merci beaucoup Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote. Merci aussi à vous, à Christophe Bourou. RTL, bonsoir, continue. Dans un instant, il y aura le concours, le match d'anecdotes et des infos pour briller au dîner. Puis après 19h, là, les pièces détachées valent très très cher. On va vous emmener en apesanteur avec le spationaute Philippe Perrin et ce sera fascinant. À tout de suite.
RTL, bonsoir, jusqu'à 20h. RTL, bonsoir. And round number one.
Allez RTL, bonsoir, le voici, le match des infos pour briller au dîner. Isabelle, Cyprien, ce soir, Isabelle, vous avez choisi de briller avec Tefal, parce qu'on a effectivement examiné aujourd'hui, on l'évoquait, une proposition de loi à l'Assemblée pour limiter ces polluants présents dans le téflon des poêles.
Et mon info, c'est que Tefal est devenue une marque mondiale grâce à Jackie Kennedy.
Oui, ça, tout va bien.
Mais oui, je vous jure, je vous explique.
Une vraie femme d'intérieur, cette Jackie.
La marque Tefal, téflon aluminium, Tefal. Ah. Oui, c'est ça que ça veut dire.
Elle met des infos cachées dedans. Ça...
La marque a été créée en 1956 par le monsieur qui a inventé le téflon, c'est l'ingénieur Marc Grégoire. Succès immédiat, mais succès très français. Et puis un jour, en 1961, John Fitzgerald Kennedy se rend à New York. Sa femme, Jackie, est avec lui et pendant que le tout nouveau président américain enchaîne les réunions politiques, madame fait les boutiques, un peu comme madame tout le monde. Incontournable à New York, elle va chez Macy's, le grand magasin, c'est un peu les galeries Lafayette ou le printemps à New York, mais quand elle sort, elle tombe sur une foule de photographes et du coup, bah, un peu surprise, bon, allez, elle prend la pose en brandissant comme ça son achat à bout de bras, je fais bien hein, Jackie Kennedy, et son achat, c'est une poêle Tefal. Ouais. La photo est publiée par un magazine et là, c'est spectaculaire. En 10 jours, les ventes aux États-Unis passent de quelques milliers par mois à 1 million, puis plusieurs millions par mois. Il y a tellement de demandes que Tefal est obligé de livrer par avion. Et le comble dans tout ça, c'est que Jackie Kennedy ne cuisinait même pas. Pour info quand même, parce que le chiffre m'a paru dingue, aujourd'hui près de 4 produits Tefal sont vendus chaque seconde dans le monde, dont 85% hors de France. Tefal, marque mondiale. La France dans le monde entier.
Ils ont utilisé une influenceuse qui s'ignorait. Quoi.
Mais c'était le tout début du marketing
Instagrammeuse.
Des stars.
Instagrammeuse,
Jackie, bien sûr. Jackie. Elle a 8 millions de followers.
C'était le début.
Cyprien, vous souhaitez briller avec le café parce que les prix viennent de battre un record historique à $3,800 la tonne.
Et franchement, elle est pas mal. Mon info, c'est que le café est à l'origine de l'invention de la webcam.
Ah, vous aussi,
et oui, mesdames,
vous aussi, ça va bien.
Alors, nous sommes en 1991 dans le laboratoire informatique de l'université de Cambridge. Vous imaginez toute la bande de chercheurs, là, les premiers geeks qui bossent beaucoup et ils boivent beaucoup de café, comme nous au bureau. Mais la cafetière, eh ben, elle est un peu loin de leur bureau. Et souvent, ils se déplacent pour rien parce que la cafetière est vide, le café est pas prêt. Alors, ils décident de bricoler un petit truc, une caméra reliée à un ordinateur pour surveiller le niveau de la cafetière depuis leur poste. C'est la première webcam. Et son logiciel, il s'appelait X-Coffee. Vous savez maintenant pourquoi?
Ah, c'est incroyable.
C'est juste pour pas se lever parce qu'ils avaient la flemme, vous avez compris.
Allez, pour une fois, je vote en premier parce que comme ça, je n'aurai pas le...
L'influence.
Je n'aurai pas le verdict en dernier. Je vais voter café ce soir.
Ouais.
Et moi, je vote Tefal ce soir.
Ah, c'est Damien, notre réalisateur, qui va décider l'histoire du match.
Je vais voter Tefal aussi.
Oh là là.
Et la victoire pour Isabelle.
Désolé,
ce
Cyprien.
Soir.
C'est parce qu'il a pas, il m'a demandé combien je lui donnais pour qu'il vote pour moi. Je lui ai dit rien. Il a dit ok, je vote pour Isabelle. Ça, c'est
vrai.
Avant l'info.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'il est vénal.
C'est pas possible.
On l'aime quand même.
C'est tentative de corruption. Ah là là, bravo Isabelle. RTL, bonsoir, revient. Notre grand invité arrive. Philippe Perrin, le spationaute, l'homme qui a ouvert la voie à Thomas Pesquet. Il va nous raconter ses sorties à 400 km de la Terre. C'est fascinant. Le programme complet du 19-20. On vous le dévoile juste après ça.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy. RTL, bonsoir.
Ce dimanche, avec la super tirelire de 2 millions au quintet plus du PMU, ça va être super.
Ah bah t'as dit deux fois super.
Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux.
Ah là, t'as dit trois fois super.
Ah oui, mais je vais le dire encore, ça va être un super moment.
Ouais, bon, en vrai, je vois pas d'autre mot.
Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au quintet plus. PMU.
Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur...
Julien Cellier. RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
On s'occupe de vous, effectivement, pendant une heure encore. RTL, bonsoir, c'est votre émission, avec dans quelques minutes à peine notre grand invité. Qu'est-ce qu'on ressent lors d'une sortie dans l'espace? Qu'est-ce qu'on ressent lors du décollage d'une fusée? Eh bien, Philippe Perrin, spationaute, va nous répondre parce que lui, il a vécu de tels cas de figure. C'est l'un des 10 Français seulement à avoir vécu en apesanteur.
À suivre aussi les dessous de la vente du scooter de François Hollande.
De la cuisine avec une tarte à l'oignon dans la guinguette d'Angèle.
La playlist de Stephen Bellery avec Sandrine Quétier qui chante désormais.
Et puis le grand quiz de l'émission avec à gagner un week-end en famille au Futuroscope pour vous les auditeurs. On va aussi détailler dans quelques minutes la météo. Quelle est la tendance pour demain s'il vous plaît Peggy?
Avec encore un ciel bien gris sur la moitié nord et de faibles pluies et du soleil dans le sud et de la douceur.
À RTL, bonsoir, il est 19h. Et voici le 360. 360 secondes pour tout savoir avec vous, Victor Pourchet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La piste d'un féminicide suivi d'un suicide ne tenait pas, mais les enquêteurs ont mis un an pour éclaircir ce double assassinat à Roppenswiller dans le Haut-Rhin. Un homme et sa femme retrouvés tués par balle dans leur appartement le 25 mai 2023 et c'est l'ex-mari de cette dernière, un policier qui a été mis en examen aujourd'hui, Yannick Holland, déjà soupçonné mais pas inquiété.
Oui, ce policier avait déjà été placé en garde à vue l'an dernier, tout de suite après la découverte des corps, mais il avait nié les faits et il avait été libéré. Les enquêteurs avaient à l'époque trop peu d'éléments car l'assassin s'était montré particulièrement méticuleux sur la scène de crime. Mais une caméra a permis aux enquêteurs de comprendre la vérité, Edwige Roux-Morizot, la procureure de Mulhouse.
Après exploitation de la caméra installée au domicile des victimes, il apparaissait que les faits avaient été minutieusement préparés. L'homme paraissait connaître les habitudes de la famille, pénétrait à l'intérieur du domicile quitté quelques instants plus tôt par Madame Knott et sa plus jeune fille, tout de noir vêtu, cagoulé et ganté, s'efforçant de tourner le dos à la caméra. À l'issue des deux assassinats, l'un ayant eu lieu immédiatement après son entrée au domicile, l'autre près de 8 minutes après le retour de Madame Knott, l'auteur prenait manifestement la fuite par un Vélux donnant sur les toits.
Les experts de la gendarmerie ont passé de longs mois à exploiter toutes les pistes numériques dans cette affaire, notamment les images et le son de la caméra, ce qui a permis finalement de mettre en examen ce policier. Devant le juge d'instruction, il a reconnu son implication dans ce double assassinat.
Yannick Holland pour RTL, le suspect qui était au moment des faits sous le coup d'une mesure d'éloignement de son ex-femme, il est désormais en détention. La ministre de l'Éducation nationale veut tout savoir, dit-elle, sur l'agression de Samara à Montpellier. Une enquête administrative est lancée par Nicole Belloubet, l'adolescente de 13 ans, est sortie du coma aujourd'hui après avoir été passée à tabac mardi par au moins 3 personnes selon le procureur de Montpellier. Sa mère parle de harcèlement scolaire motivé selon elle par son refus de porter le voile. Hypothèse à l'étude pour les enquêteurs. 3 mineurs dont une élève de l'établissement sont en garde à vue pour tentative de meurtre.
Au moment où le gouvernement dévoile son plan pour sécuriser les établissements scolaires.
Notamment les 150 à 200 jugés à risque pour répondre aussi aux inquiétudes des professeurs. 100 000 sont agressés ou menacés chaque année. Nerissa Imani, beaucoup de mesures pour réagir plus que pour prévenir selon les directeurs d'établissement.
Oui, et parmi les très rares nouveautés et surtout les plus concrètes, il y a la création d'une unité mobile de surveillants des équipes venues des collèges et lycées qui interviendront dans les écoles en cas de problème pour apaiser le climat scolaire à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Des unités à ne pas confondre avec la future force mobile nationale annoncée la semaine dernière. Une vingtaine d'agents chargés d'intervenir dans toute la France en cas de crise dans un établissement dès la rentrée prochaine. Ces dispositifs sont loin d'être suffisants pour Jean-Rémy Girard du syndicat national des collèges et lycées.
On s'attendait à de l'aide humaine qui soit pas du saupoudrage. Dans les écoles primaires, on aurait besoin de personnes pour assurer l'accueil et la sécurisation au quotidien, pas uniquement s'il y a un problème.
Le syndicat aurait également préféré que l'État et les collectivités s'engagent financièrement pour généraliser les dispositifs de sécurité, comme par exemple les boutons d'alerte permettant de prévenir directement les forces de l'ordre en cas de problème. Leur efficacité a été prouvée, mais aujourd'hui, seuls 1% des collèges et lycées en sont équipés.
Les explications de Nerissa Emani et RTL vous le révélé cet après-midi. Alain Delon a été placé sous curatelle renforcée. L'acteur ne peut plus gérer librement ses biens. Certaines de ses décisions sont aussi encadrées concernant son état de santé. La demande avait été formulée conjointement par les 3 enfants d'Alain Delon, eux qui se déchirent depuis plusieurs mois sur la manière de traiter sa maladie.
Les soupçons de la Russie envers la France, pas du tout au goût d'Emmanuel Macron.
Les ministres de la Défense des deux pays se sont appelés hier pour la première fois depuis un an et demi. Objectif de Paris, transmettre des informations utiles sur l'attentat de Moscou le mois dernier. Commentaire des Russes après la discussion. Nous espérons que les services secrets français ne sont pas impliqués via l'Ukraine. Réponse cinglante du chef de l'État cet après-midi lors de la visite des bassins des Jeux Olympiques à Saint-Denis.
Les commentaires pour partie du côté russe ont été en effet baroques et menaçants. C'est pas nouveau. C'est ridicule, si vous voulez le dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, c'est... Tout ça n'a aucun sens, ça ne correspond pas à la réalité, mais c'est une manipulation de l'information, ce qui fait partie de l'arsenal, si je puis dire, de la guerre telle qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. Il faut en être conscient. On n'a absolument pas à nous justifier, d'ailleurs nous ne nous justifions pas. C'est la démonstration de ce que je vous dis depuis le début d'année, c'est d'un accroissement de la posture agressive de la Russie.
Emmanuel Macron au micro RTL de Morad Jabari.
Les ustensiles de cuisine et notamment les fameuses poêles Tefal passent entre les mailles de la loi sur les polluants éternels.
Ils ne sont pas concernés par le texte voté en première lecture par les députés aujourd'hui. Colère des parlementaires écologistes. Ils dénoncent une concession au lobby des fabricants qui s'étaient mobilisés. Les vêtements, les cosmétiques et d'autres produits contenant ces PFAS sont eux toujours visés par une restriction de leur vente et de leur fabrication.
Et puis le prix de votre espresso pourrait devenir aussi amer que le café lui-même à cause du réchauffement climatique notamment.
Le cours du Robusta, cette variété très utilisée, a atteint un pic historique depuis 2008. David Serruis, président du collectif Café qui représente la filière, explique cette flambée des prix par 5 leviers.
Premier levier qui est la spéculation financière. Comme on peut le voir en France, l'inflation. 3, une hausse de la consommation du café. Une montée en gamme du Robusta. Et bien entendu, le dérèglement climatique.
Il va falloir s'habituer à ça, à voir les prix augmenter à cause du dérèglement climatique, à cause du gel, à cause des sécheresses. C'est un truc qu'il va falloir intégrer.
À mon avis, oui. Le risque, ce sont les climats secs, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'ombrage. Quand on parle d'ombrage, c'est plutôt de la déforestation. C'est un produit très sensible. Le café qu'on pouvait récolter, par exemple, au Cameroun au mois de décembre, aujourd'hui, on commence à le récolter au mois de janvier, voire fin janvier, voire début février.
Le président du collectif Café au micro RTL de Pierre Herbulot, et puis un mot de cyclisme et des nouvelles rassurantes de Jonas Vingegaard, pris dans une chute spectaculaire sur le Tour du Pays Basque. Le Danois est conscient et va être examiné à l'hôpital. À moins de 3 mois du Tour de France, les favoris Remco Evenepoel et Primoz Roglic ont aussi été touchés.
Merci Victor, à tout à l'heure à 20h. Le temps de demain, il ressemblera à quoi, cher Peggy?
Un peu à celui-ci d'aujourd'hui, mais avec des pluies beaucoup plus faibles. Alors on a une nouvelle perturbation qui va concerner la moitié nord, en tout cas les régions le matin entre les Pays de la Loire et la Normandie en allant vers l'extrême nord avec un peu de vent, de faibles pluies. Sur le reste de la moitié nord, on aura un temps sec avec un ciel plus ou moins voilé. Dans le sud, c'est du soleil avec quelques grisailles sur le pourtour méditerranéen et du Languedoc-Roussillon et beaucoup de vent. Et dans l'après-midi, ces grisailles vont se dissiper. Le vent sera toujours assez fort, notamment près de la Méditerranée, sur la vallée du Rhône, l'Occitanie et les Pyrénées. La moitié sud conservera un beau soleil et sur toutes les régions au nord de la Loire, on aura beaucoup de nuages, de très faibles pluies, très éparses. Et puis, le retour du soleil sur l'extrême nord, sur les Hauts-de-France, avec des températures qui sont très douces. On est souvent 5 à 7 degrés au-dessus des normales. Pour l'après-midi, ça donnera 17 du côté de Cherbourg, 18 à Rennes, 19 à Paris comme à Toulon, 20 degrés à Nantes et Nancy, 22 à Strasbourg et Lyon, 25 à Grenoble, 26 à Montauban. Et jusqu'à 28 degrés demain à Biarritz et à Tarbes.
Incroyable.
Et je rappelle que Lyon et l'Aube sont toujours en vigilance orange cru.
Merci beaucoup Peggy. Avant d'accueillir dans quelques instants notre grand invité, le spationaute Philippe Perrin, pour une sortie dans l'espace absolument fascinante, et bien un petit tour en deux roues.
RTL, bonsoir. Les dessous de l'actu.
Et on va revenir sur cette info insolite, la vente aux enchères du scooter de François Hollande.
Mais vous savez, le fameux scooter sur lequel l'ancien président avait été photographié sortant du domicile de Julie Gayet, alors qu'il était en couple avec Valérie Trierweiler. Cette vente aura lieu le 26 mai en Indre-et-Loire. Bonsoir Margot Munoz.
Bonsoir.
Ah, d'abord, il est à qui actuellement ce scooter ?
Eh bien, les derniers propriétaires sont Patrick et Manola Siono, un couple originaire d'Indre-et-Loire. Ils achètent le scooter à un ami en 2021, un 3-roues gris de la marque Piaggio, un petit cadeau pour fêter leurs noces d'or. Et à ce moment-là, ils ne sont pas du tout au courant qu'ils roulent avec le scooter le plus connu de France, jusqu'au moment où ils regardent la carte grise du véhicule et ils découvrent qu'elle est au nom de l'Élysée.
Excellent.
Et du coup, ils ressortent le numéro du closer, la couleur comme le modèles correspondent. Ils en sont sûrs. Dans leur garage, il y a le célèbre scooter de François Hollande. Mais aujourd'hui, Patrick a 71 ans. Il est obligé de s'en séparer.
Moi, je le vends parce que j'ai 71 ans, si vous voulez. Bon, je suis handicapé inclusion, donc monter dessus, le faire rouler, tout. C'est des choses que je ne peux pas faire. Bon, ceci dit, aujourd'hui, sa place, ce n'est pas de rouler pour aller au travail. Il faut qu'il soit bien conservé, comme il est, avec son histoire, c'est important.
Mais on est sûr que c'est le sien ?
Eh bien, c'est la première chose qu'Émeric Rouillac, le commissaire priseur en charge de la vente, a dû vérifier. Et c'est Patrick et Manola qui lui ont donné la preuve après avoir rencontré François Hollande à une dédicace près de chez eux.
Il lui montre la photo du scooter, il lui garde et là,
François Hollande a un immense sourire. Il reconnaît son scooter. Il dédicace son livre à Patrick et Manola, qui ont le plaisir d'enfourcher mon scooter, partager leur bonheur. Il signe et il ajoute « Le scooter est le bon ». C'est la première fois dans l'histoire des ventes aux enchères publiques françaises qu'un certificat d'authenticité est rédigé par un président de la République.
C'est extraordinaire.
Et d'ailleurs, sur la page d'accueil, si vous voulez aller faire les curieux, sur le site de la Maison Rouillac, le commissaire priseur preuve à la main et le propriétaire chevauche fièrement le fameux scooter avec le drapeau français en arrière-plan.
Ah, c'est beau. Et il coûte cher ce scooter ?
Alors, j'ai fait un tour sur Le Bon Coin. Un scooter d'occasion comme celui-là se vend maximum 3000 euros. Ah. Je vous laisse deviner la mise à prix pour celui de l'ex-président.
5-6 000 normalement.
À l'aise.
Plus
10 ouais.
10 000 euros. Mais le scooter est considéré comme une pièce de collection par le commissaire-priseur. Il fait d'ailleurs partie d'une vente exceptionnelle, celle des meilleures trouvailles de l'année par la Maison Rouillac.
Ce n'est pas une vente de véhicules, c'est vraiment une vente de souvenirs historiques à côté de tableaux de Picasso, de Renoir, de Redon, du mobilier historique français. Je pensais que c'était une anecdote et puis on voit avec l'engouement qui se passe que c'est un objet témoin d'un certain moment de l'histoire de France et de la Ve République.
Alors si l'un de vous en studio est intéressé, vous savez ce que vous reste à faire. Rendez-vous le 26 mai au château d'Artigny en Indre-et-Loire.
Il ne roule qu'en 4x4.
Non, j'ai un petit scooter.
C'est vrai, il est tout petit en plus.
Tout petit, pas cher.
Vous rendez votre 4x4 ou un Piaggio, on ne sait pas trop.
Les dessous de l'actu, Margot Munoz ce soir. Après le scooter de François Hollande, on va monter dans une fusée maintenant en apesanteur. C'est le nouveau livre de Philippe Perrin, l'un des 10 spationautes français à avoir participé avec le drapeau bleu-blanc-rouge à la conquête de l'espace. Et il va nous raconter des souvenirs absolument fascinants. Vous restez avec nous, on décolle juste après ça.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini. RTL, bonsoir.
Allez, RTL, bonsoir. La deuxième heure, on va vous emmener dans l'espace ce soir avec notre grand invité en apesanteur même, parce que c'est le titre de son livre. Nous accueillons le spationaute Philippe Perrin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie des 10 Français à avoir eu cette chance de participer à la conquête spatiale. Vous avez été aussi pilote de chasse, une vie dans les airs donc. Vous la racontez et c'est passionnant dans ce livre qui sort aujourd'hui aux éditions Michel Lafon.
Alors, grâce à vous ce soir, Philippe Perrin, bien nos auditeurs vont découvrir ce qu'on ressent quand on sort dans l'espace. Vous êtes sorti 3 fois de la station internationale équipée de cet énorme scaphandre dans le vide, dans le grand noir, pour des missions de réparation d'installation d'un bras robotique. Écoutez, c'est la bande-son de votre mission. On est en juin 2002.
And it's open.
It's open. C'est ouvert. Là, vous sortez dans l'espace. Ce sont les toutes premières pages du livre. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve dans le vide ?
Merci pour l'émotion. Alors, je sors 3 fois. À chaque fois, c'est la nuit. Il faut imaginer qu'en fait, le sas ouvre vers le bas, c'est-à-dire vers 400 km de vide. Alors là, les gens réagissent de façon différente. Il y a des gens qui ont en fait le vertige et qui se retrouvent figés. C'était un peu le cas de mon camarade. C'était le cas, par exemple, d'un autre astronaute qui me disait sur les missions Hubble être porté par le bras robotique et avoir l'impression d'être sur un plongeoir géant à 400 km au-dessus de la piscine. Alors, on peut être pris de terreur, on peut être pris de vertige. J'ai eu la chance de ne pas avoir le vertige. Pourtant, j'ai le vertige. J'ai pas le vertige en avion, j'ai le vertige si on met en haut d'un bâtiment. Mais là, dans l'espace, j'avais plutôt l'impression de voler, de flotter.
Vous dites on est hypnotisé par la Terre, qui est donc à 400 km. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, hypnotisé ?
L'expérience, en fait, de la sortie extravéhiculaire, c'est vraiment une expérience du corps. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous savez. La Terre est ronde. Bon, pas trop de doutes. Pas pour tout le monde, remarquez. je peux en témoigner.
Confirmer.
Mais on a beau le savoir, quand on le voit avec ses propres yeux, je dirais avec ses tripes, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, vous réalisez que c'est vraiment ça. Je pense que dans tous les métiers, vous partez à la voile, et puis vous savez qu'il y a un océan Atlantique qui est grand, puis vous êtes en plein milieu de l'océan Atlantique.
Et là, il est vraiment très long.
Là, il est vraiment très grand. Vous comprenez ce genre d'expérience ? Je pense qu'on a tous dans la vie ce genre d'expérience. Et donc, quand on fait l'expérience de la Terre, on se dit, mais waouh, c'est vraiment une planète, quoi. Hein. Puis il n'y a rien en dessous, puis il n'y a rien au-dessus. Puis le ciel est noir. Imaginez un ciel noir. On a beau savoir que le ciel bleu, c'est juste cette petite couche de 100 km qui nous protège de tout. On a l'impression qu'elle est toujours là. Vous demandez à des enfants, par exemple, pour une fusée d'école, comment sera le ciel ? Bleu, le ciel, c'est toujours bleu. Ben non, le ciel, c'est noir.
Mais il n'y a pas d'étoiles ? Alors, on Désolé pour des questions de béotiens comme ça, mais...
Il y a des étoiles de jour, comme de nuit, le ciel est toujours noir.
Et vous avez le soleil parce que se lever en plus.
Oui, les étoiles en fait sont toujours là.
Et le soleil s'est levé pendant que vous étiez...
Et le soleil se lève, alors il se lève 14 fois, il se lève toutes les heures et demie, puisqu'on a, on fait un tour de Terre en une heure et demie, donc on alterne 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit. Et là, le soleil se lève. Et donc je fais 3 sorties, chacune va durer 7-8 heures. Et à chaque fois, j'apprends un peu plus de la planète. C'est-à-dire que, au départ, je suis juste fasciné par la beauté. Et à la fin, je crois que dans ma dernière sortie, je le raconte, j'ai même l'impression que c'est un être vivant. C'est-à-dire que je vois la planète. On parle toujours de biosphère. On utilise parfois le mot Gaïa pour expliquer. Mais c'est vraiment l'impression qu'on a. C'est-à-dire une cellule vivante.
Et impressionné par la quantité d'eau, c'est ce que vous racontez là aussi.
Oui, c'est ce qu'avaient dit les astronautes des missions Apollo. Hein, la Terre est bleue et c'est vrai qu'elle est bleue. En fait, quand on quitte la Terre, le bleu du ciel se retrouve en fait sous vos pieds. C'est le bleu de la Terre, c'est le bleu des océans. Et puis alors, des fois, il vous arrive des surprises. Par exemple, un micrométéorite qui va passer, enfin une étoile filante, et qui va passer sous vos pieds. Vous rappeler qu'en fait...
C'est mieux que ça passe sous les pieds.
Alors, ça passe sous les pieds...
Ça doit être hyper impressionnant.
Probabilité, ça passe autour de vous, quoi.
Ouais. Et on n'entend rien lors de ces sorties dans l'espace? Il y a zéro bruit, à part sa respiration?
J'aurais aimé, moi, en fait, qu'il y ait zéro bruit. Les Américains adorent parler.
Ah, vous parlez dans le scaphandre.
Non, mais c'était vrai. J'ai été militaire, j'ai fait des opérations à la guerre du Golfe. Vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes allé dans des restaurants, il y a toujours du bruit, il y a toujours... Donc, en fait, on parle beaucoup, mais on parle aussi pour de bonnes raisons, c'est qu'on est guidé par la Terre. En fait, dans le scaphandre, vous devenez un petit peu comme un robot, c'est-à-dire c'est un homme robot qui a perdu une partie de ses moyens et qui est télécommandé par les gens au sol qui vous disent ce qu'il faut faire. Alors, vous avez sur le casque des caméras qui, en temps réel, renvoient l'image au sol et vous êtes un peu comme télécommandé dans...
Et ce scaphandre, il est ultra lourd parce que vous pesez en fait quoi, 250 kilos. En plus, je crois
que... Oui, il fait 150.
Vous broie les pieds en plus.
Oui, alors il est pressurisé, mais surtout il est rigide. Parce qu'il ne faut pas l'imaginer comme une seconde peau. En fait, c'est une carapace avec des articulations qui sont métalliques.
Donc c'est une vraie épreuve physique.
Une épreuve. Ah oui, vraiment.
Ce que vous racontez, c'est épuisant en fait.
C'est épuisant. Et dans mon cas, c'était l'époque un peu des pionniers. Il fallait faire 3 sorties sur une semaine pour assembler la station. Ouais. Et donc, c'était la fatigue d'un jour qui s'accumulait avec celle de la deuxième journée et celle de la troisième.
La Terre, depuis la Station Spatiale Internationale, vous la regardez souvent, on en a parlé. Il y a des choses qui vous marquent, et ça, vous le racontez dans le livre, la bande de Gaza, par exemple, dont on parle tellement en ce moment.
Oui, je vais ramener l'image à mon ami Ilan Ramon, qui était le premier astronaute israélien, malheureusement décédé dans l'accident de Columbia. Et alors, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était aussi... la différence entre Israël et Gaza, et aussi la différence entre Israël et l'Égypte. Parce que finalement, on a un trait, droit, une frontière. D'un côté, il y a la vie, de l'autre côté, il n'y a pas la vie. Ce qui laisserait à penser qu'on pourrait peut-être aussi mettre un peu de vie dans la partie égyptienne de...
Ouais. La pollution, ça vous interpelle aussi? Est-ce que là-haut, on voit vraiment des nappes grises?
On voit, et ça, je ne m'y attendais pas, ça ne m'avait pas été... Alors, la NASA documente, en fait, les phénomènes environnementaux depuis toujours. Alors, on documente la fonte des glaciers, Et je ne m'attendais pas, en fait, à avoir de pollution. Et la pollution, c'est la pollution en particules. Et vous la voyez, alors, dans mon cas, je la voyais, par exemple, sur la plaine du Pôle, bassin industriel italien.
Qu'on voit comme une espèce de gros nuage gris.
C'est ça.
Nettement des marques sur les endroits les plus pollués, en fait. Ça.
Et puis, alors, surtout, c'est l'Inde vers la Chine, et surtout la Chine vers les États-Unis. Là, j'ai vu... des nuages en fait de poussière quittaient la Chine et emportés par les vents dominants allaient jusque sur la côte ouest des États-Unis. Et ça, on le voit. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'on sait qu'il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Il y a le CO2, lui, on ne le voit pas. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas de satellite qui était en capacité de voir le dioxyde de carbone. Maintenant, on en a. Et je pense que c'est très important, justement, là aussi, d'avoir une expérience des yeux, du corps, c'est-à-dire de voir les choses. Quand on a des chiffres, on sait que ça augmente.
C'est un peu
abstrait. Quand on le voit, et ça, je pense que c'est une des grandes vertus du spatial. C'est pour ça que j'ai dit dans le livre, le spatial, c'est pas mal parce que ça a été une épopée où les gens se sont mis ensemble pour essayer de résoudre des problèmes. Ça pourrait nous aider.
Avant de vous retrouver dans l'espace, il y a le décollage. Là aussi, on a retrouvé les bandes-sons de la NASA. C'est l'autre instant vintage.
Ah, c'est sympa.
10 seconds. 10, 9, 8, 7. We have a go for main engine start. 5, 3, 2, 1, 0. We have booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Endeavour, extending our reach while expanding our research in space.
Ce tremblement qui devient un rugissement, c'est ce que vous écrivez. Racontez-nous le bruit.
C'est le bruit, c'est beaucoup la vibration. 70% de la poussée sur une navette spatiale est donnée par les boosters, ce qu'on appelle les boosters. En fait, ce sont des gros pétards dont on a coupé la base. Donc c'est une explosion contrôlée. Vous imaginez une explosion, donc ça vibre énormément. Ça vibre à tel point qu'on ne voit plus les écrans, tout bouge. On aurait même du mal s'il fallait piloter à le faire, mais on pourrait. Et c'est une phase où on a été entraîné à réagir en cas de souci, et on est prêt à réagir à la milliseconde. C'est une phase où on est extrêmement concentré. Donc on est à la fois emporté par les sentiments et à la fois, en permanence, on se dit ne te laisse pas emporter, reviens à ta tâche parce qu'en cas de problème, c'est à toi de jouer.
Et sur la poussée de la fusée, vous dites c'est comme si on recevait un coup de pied dans les fesses mais qui ne s'arrête jamais. Alors c'est ça la sensation?
Oui, c'est pour ça. Alors ça, c'est... J'essaye dans le livre d'expliquer les choses avec force détail parce qu'une poussée de fusée, il n'y a rien de comparable sur Terre. Par exemple, je suis pilote, moi j'ai pris des facteurs de charge dans un manège. Prenez du facteur de charge.
Oui, des gros manèges là. Ouais.
Prenez de 2G, 3G, etc. C'est toujours associé à une rotation. Quand vous étiez enfant, votre père vous prenait dans les bras et vous vous êtes tourné. Donc vous avez la mémoire qu'une force est associée à une rotation. Vous le savez, votre oreille interne le sait. Une force qui va tout droit et qui n'est pas associé à une rotation, ça s'appelle un coup de pied aux fesses. Donc, vous avez l'impression que vous avez un coup de pied aux fesses qui ne s'arrête pas. Et ça, c'est juste hallucinant. En fait, rien ne prépare des millions d'années d'évolution de l'homme sur Terre à connaître toutes ces phases du vol, que ce soit le décollage, verticale. La poussée verticale. Je dis, on crève le plafond de verre, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Et au moment où vous partez vraiment comme un voyageur au long cours, c'est-à-dire vous ne savez pas où vous allez, en fait. Vous avez été entraîné, mais au moment où ça part, quoi.
Ouais. Et là, on en sourit avec ce coup de pied aux fesses. Mais vous, ce jour-là, quand même, vous dites que vous pensiez à Challenger, la navette qui s'est écrasée dans les années 80. Il y a cette appréhension, quand même.
Oui, on y pense pour les gens qu'on laisse. Moi, j'avais mes parents qui étaient là, j'avais mon épouse, mes deux filles. Donc, c'est pour eux. Et donc, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Il y a une partie chance, il y a une statistique, quoi. Une navette, ça a une chance sur 100 peut-être d'exploser. Une fusée, quelle qu'elle soit, c'est à peu près la même chose. Donc, on essaye d'y penser pour chasser le mauvais sort, c'est ça.
Philippe Perrin, vous restez avec nous, vous êtes notre grand invité. On reprend cette discussion fascinante juste après la toute petite pause de quelques secondes. Vous allez nous raconter l'apesanteur, là aussi, qu'est-ce qu'on ressent. Et puis, on va parler de votre vie de pilote de chasse, parce qu'en vous lisant, on est saisi lorsque vous nous racontez comment vous êtes un jour éjecté. Ça aussi, vous devez nous le raconter. Vous restez avec
nous. Ma première fusée.
RTL, bonsoir. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
RTL, bonsoir, la deuxième heure avec un grand invité passionnant ce soir, le spationaute Philippe Perrin est avec nous pour son livre En apesanteur, en librairie depuis aujourd'hui. L'apesanteur, vous l'avez découverte à l'entraînement pendant des mois aux États-Unis, puis vous l'avez testé ensuite en conditions réelles, on le disait, dans l'espace en 2002. Vous racontez que quand elle vous gagne, vos pieds ne servent plus à rien. C'est quoi? C'est la première chose qu'on ressent, en fait?
Oui, on a encore une fois, des millions d'années d'évolution font qu'on n'est pas fait pour...
pour ressentir ça normalement, mais oui.
Donc la première fois que vous décollez, ben, vous essayez en fait d'utiliser les pieds un peu comme des nageoires.
Dans le vide.
Alors, vous pouvez pédaler dans le vide, en fait ça ne marche pas. Et on voit ça sur les images, notamment sur les vols 0G. La seule façon d'ailleurs sur Terre d'avoir de la pesanteur, ce sont les vols 0G. Et ça ne dure que 25-30 secondes.
Ce sont des vols où on fait une parabole au-dessus.
En fait, une parabole, c'est une petite orbite. Hein. C'est comme une orbite, si ce n'est qu'elle passe par le centre de la Terre. Donc, faut vite l'arrêter. Parce que ça, non. Mais c'est une orbite. Et une orbite, en fait, c'est une chute libre. C'est ce que j'explique dans le bouquin, en prenant l'image d'abord de l'ascenseur qu'on pourrait lâcher ou du plongeoir duquel on saute. Et puis, si on vous donne de la vitesse, ben, cette chute, elle est entretenue parce que la Terre se dérobe sous vos pieds. Et donc, une orbite, c'est une chute libre. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens en sortie extravéhiculaire qui ont l'impression de chuter. Parce que dans la pratique, c'est ce qui se passe. On est en chute.
Ouais. Et votre colonne vertébrale, elle s'allonge de 5 cm.
Voilà, elle s'allonge, on le sait. Donc le scaphandre est dimensionné pour ça.
Et il est un peu plus grand.
Il est un peu plus grand. D'ailleurs, on me dit, mais si ça ne suffit pas, tu n'as qu'à rentrer et presser un peu sur les épaules. Tu vas comprimer la colonne. C'est ce que je fais, parce que je suis un peu plus grand que prévu. Quand je me mets dans le scaphandre, je pousse sur les épaules, ça comprime la colonne. Et plus tard, quand je reviens sur Terre, je vois mon épouse qui me dit « Mais tu as encore grandi. » Et je crois qu'à ce moment-là, je dois avoir peut-être
et après, ça deux se centimètres. Ça,
vous revenez à votre 1m87 après ou pas?
On vient, ouais. Voilà. Dans d'horribles douleurs parce que.
Ah, ça fait mal quand ça s'allonge parce qu'on a l'impression que ça fait du bien d'étirer la colonne.
Oui, mais il y a une confidence dans le bouquin, c'est qu'en fait j'ai une chirurgie un an et demi avant le vol, parce que je me suis cassé la colonne vertébrale comme pilote de chasse sur une éjection. Et donc, quand la colonne se remet en place, tout se remet en place de façon plus ou moins heureuse. Donc j'ai des décharges électriques, j'ai des.
Et on a du mal à trouver le plafond et le sol aussi, on est un peu perdu dans l'espace.
Oui, parce que bon, vous avez beau flotter, enfin vous avez beau nager, il ne se passe rien. Donc en fait, tout se fait avec les mains. C'est-à-dire que vous apprenez, vous réapprenez en fait à bouger, mais plus avec les pieds, avec les mains.
Et avec vos collègues russes, vous avez fait un peu comme le capitaine Haddock dans Tintin.
Et comme va faire, voilà.
Qu'est-ce que c'est ? Tonnerre de Brest, en voilà des manières. Alors, oh, pas de blague, dans mon verre et plus vite que ça. Allez ! Mais ça, bon, qu'est-ce que je fabrique ici ?
C'est l'apéro avec les bulles d'alcool qui volent comme ça ?
Ben, là aussi, je ne m'y attendais pas. Et les Russes ont ce qu'ils appellent un alcool thérapeutique, oui. qui se boit très bien.
Qui s'appelle vodka.
Et qui est très thérapeutique. Et il y a cette fraternité, il y a cette convivialité. C'est vrai que je compare un peu les milieux. Je suis hypnotisé par la force du système américain, son énergie. Et je suis aussi très attiré par le côté plus fraternel des Russes. Donc, par exemple, typiquement, à midi, j'allais manger côté russe, du côté segment russe de la station, parce qu'on me faisait à manger, on me disait « Philippe, le repas est prêt, voilà. » Les Américains, c'est souvent un sandwich en passant, mais comme ils font dans la vie, c'est-à-dire...
Comme dans la vraie vie.
Voilà, comme dans la vraie
comme
vie.
Comme au sol.
C'est ça.
À l'âge de 20 ans, vous avez dit à vos parents « Je vais devenir astronaute », mais avant, il fallait passer par l'armée de l'air, vous y avez été donc pilote de chasse. Est-ce que ça vous sert, cette pression exercée sur le corps lorsqu'on est dans un avion de chasse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent aussi peut-être d'une autre façon, même si ça a l'air différent, d'après ce que vous nous racontez?
Tout me sert. L'armée de l'air a été mon école. Enfin, au départ, je suis polytechnicien, mais j'estime que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans l'armée de l'air. Je dis, je crois, dans le livre, je me suis baigné dans l'armée de l'air comme dans un bain froid qui m'a vivifié, enfin, qui a fait de moi celui que je suis, c'est-à-dire, le travail en équipage, la fraternité que je découvre dans l'armée de l'air, la gestion du risque, la confiance en l'autre, tout ça. Et aussi donc la physiologie qui va servir, bien sûr.
Ouais. On évoquait la peur, là, tout à l'heure. Vous avez, vous, participé à la guerre du Golfe et vous racontez à quel point il faut apprendre à accepter la mort, celle des autres, celle des amis. Vous racontez vos parents en larmes le jour où ils apprennent qu'un avion a disparu parce qu'il y a une chance sur 10 que ce soit vous.
Si j'en parle, je pense que je suis capable de pleurer. Parce qu'en fait, je ne connais pas l'histoire, mais mon père me la raconte au moment où je rentre. Donc, on est effectivement en opération. On est 10 pilotes sur Mirage F1CR. Il y en a un qui se tue malheureusement donc, à l'entraînement sur une dune. Et je lui rends hommage. En fait, dans le livre, je rends hommage à tous les amis que j'ai perdus et à qui j'avais promis que je les emmènerais dans l'espace. Et ce que je ne sais pas, c'est que la nouvelle est annoncée en fait en France avant de pouvoir prévenir les familles. Mmh. Donc mon père est dans sa voiture, il entend cette nouvelle, et il sait qu'il a une chance sur 10 que cet individu, ce soit son fils. Voilà. Et ça, c'est bouleversant. Donc en fait, on impose dans ces métiers beaucoup de choses à ceux qui vous aiment.
Vous parlez beaucoup de votre femme dans ce métier.
Oui, parce qu'on impose énormément. C'est-à-dire que nous, on vit de passion, on ne réfléchit pas au danger, on l'évacue, parfois il revient, mais... En général, on n'y pense pas, mais ceux qui y pensent sont ceux qui restent.
La peur, c'est aussi celle de l'accident. Vous l'avez dit, un jour, vous avez été contraint de vous éjecter dans votre avion. Vous participiez à un exercice de tir, il y a un de vos obus qui ricoche, qui vient percuter votre propre avion. Vous pouvez nous raconter cette éjection?
Oui, cette éjection, heureusement, je suis dans cette armée de l'air qui a structuré justement toutes les défenses nécessaires face à ce genre d'événement. Et là aussi, je rends hommage à mon ancien officier de sécurité, Carvela, qui nous avait dit « Mais un avion, ça peut coûter des centaines de millions. Quand ça vole plus, il faut le quitter. » C'est-à-dire que c'est très important. Et j'ai l'expérience, parce que la première expérience que j'ai, c'est à l'école de l'air. Et là, le camarade ne sort pas de l'avion, parce qu'il essaye de le sauver jusqu'au bout. Donc, il va falloir partir. Et
la décision, elle se prend en un quart de seconde.
Grand bien m'en a pris. Je suis aidé par mon ailier, qui me voit tomber sur, parce que tout ça se passe près du sol, il me voit tomber vers la forêt. Il me dit, Perrin, éjection, éjection, et là, je sors. Et en fait, je vais rester peut-être 5 secondes sous parachute et je vais traverser en fait la forêt. Les arbres vont me freiner, je vais arriver au sol.
Mais l'éjection, c'était la propulsé fin. Avec une... À combien de G c'est...
Je crois que c'est 10 G sur...
C'est très violent, il y a la verrière qui explose. Ouais.
La verrière explose. Ce qui est très marrant, c'est que, comme peut-être tous les gens qui ont vécu des accidents, tout se passe au ralenti. C'est-à-dire que je me vois monter doucement, je vois la verrière exploser, je sens la pression sur ma colonne vertébrale, mais qui s'installe doucement, je sens ma colonne vertébrale onduler, et tout ça est ralenti. Parce que le corps a ça de fantastique, c'est que quand il en a besoin, il sait en fait arrêter le temps de la pensée, quoi.
Philippe Perrin, vous, le spationaute ex-pilote de chasse, vous êtes notre grand invité en apesanteur. Votre livre sort aujourd'hui. La suite dans l'émission, c'est de la musique, c'est de la cuisine. La cuisine, juste les plats de spationaute, les plats pour chat, comme dit votre femme. C'est bon ou à la fin de la mission, on est quand même content de retrouver un bon plat à la maison?
On perd le goût dans l'espace, parce qu'avec la montée des fluides, on n'a plus vraiment le goût des choses.
C'est une grosse sinusite en permanence, quoi.
C'est ça, c'est plus qu'une sinusite. D'ailleurs, ça entraîne une perte d'idéation, c'est-à-dire qu'on devient un peu bête aussi dans l'espace et on perd le goût.
Mais c'est embêtant, parce qu'on demande de faire plein de choses quand même dans l'espace.
C'est pour ça qu'on s'entraîne beaucoup.
La musique, on va aussi en parler avec vous, parce que vous aviez emporté des disques là-haut. Là, dans l'immédiat, à la bande-son, c'est la playlist de Steven Bellery. Salut Steven.
Salut à tous.
Qu'est-ce qu'on écoute?
Bah, Calogero, évidemment.
Évidemment.
Ah oui.
Petite blague musicale. Est-ce que vous vous souvenez de Sandrine Quétier, l'animatrice
de TF1? Oui,
bien sûr. Depuis des années, elle travaille sur son tout premier album qui vient de sortir. Rencontre avec une ex-star de la télé, nouvelle rockeuse.
Formidable. La popote, c'est la guinguette d'Angèle Ferromax. Salut Angèle.
Bonsoir tout le monde.
On mange une tarte ce soir.
Ce soir, on mange une tarte rustique, mais aux oignons.
Ah, très bien. Tarte à l'oignon.
Allons tout de suite.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Cini. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Cini. RTL, bonsoir.
RTL, bonsoir, la deuxième heure. Notre grand invité ce soir, c'est le spationaute Philippe Perrin. On passe en cuisine.
RTL.
Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre, de petits oignons, des cornichons.
Bonsoir.
Allez, RTL vous régale, c'est la guinguette d'Angèle Ferromag. Maintenant, c'est bon conseil à l'heure de passer à table, à l'heure du dîner. Ce soir, vous nous proposez une tarte, mais alors pas n'importe quelle tarte, c'est un poil original. Tarte à l'oignon, c'est ça?
Tarte à l'oignon, caramélisée.
Ma soeur l'a réussi parfaitement. La tarte tatin à l'oignon, elle appelle ça. Vous avez la pression,
Angèle. J'ai une pression énorme. Ouais. Bon, alors déjà, pour faire cette tarte, on va commencer par faire... Maison, la tarte brisée. Ouais, s'il vous plaît, je n'arrête pas de vous le dire. C'est très simple à faire, la pâte. Et le rendement temps qualité est tellement énorme que vraiment...
Ça vaut le coup, quoi.
Ça vaut vraiment le coup de faire sa pâte à la maison.
Comment on fait une pâte brisée?
Alors, pour faire une pâte brisée, on va mélanger 250 g de farine avec 125 g de beurre froid, coupé en dés, une pincée de sel et 50 ml d'eau froide, tout simplement. On mélange bien, avec la paume de la main, jusqu'à ce qu'on forme une boule. On va envelopper la boule dans un film alimentaire. On laisse reposer à peu près une demi-heure au réfrigérateur avant de l'utiliser. Et là, moi j'adore, puisque je suis flemmarde et que j'aime pas faire la vaisselle, mettre entre deux feuilles de papier cuisson.
On la connaît maintenant, comme la technique. Hein.
Comme ça, avec mon rouleau à pâtisserie ou
une bouteille de vin,
j'écrase ma pâte. Et ensuite, j'ai rien à nettoyer et j'enfourne tout simplement mon fond de tarte. Donc, ça, c'est pour la pâte. Ensuite, pour les oignons. Donc, on va prendre 4 gros oignons. Moi, j'aime bien utiliser des oignons rouges.
Ouais.
On coupe en deux. En fait, vous les coupez comme vous voulez, mais quand on les coupe en deux, ça fait un peu effet tarte tatin, c'est assez joli.
On enlève la peau. Hein.
On enlève la peau.
Et on prend pas les oignons oranges, alors, des rouges.
Oh bah, comme vous voulez, mais je trouve que les rouges, c'est encore plus beau. L'oignon rose aussi, cette tarte, en fait, va être vraiment jolie. Donc ensuite, dans une casserole, on va mettre 2 bons filets
d'huile d'olive.
On peut même ajouter un peu de beurre ce soir parce qu'on est coquinou. Une pincée de sucre. Du sel, du poivre. Moi, j'aime bien mettre un peu de vinaigre balsamique. Et là, on va faire tout simplement caraméliser nos oignons. 5 minutes de chaque côté à peu près. On préchauffe notre four à 200 degrés. Quand nos oignons sont bien caramélisés, on va utiliser notre fond de tarte. Donc, l'idéal avec la pâte rustique, c'est que les tartes rustiques, c'est qu'on ne va pas utiliser de moule. Donc, sur notre feuille, vous voyez, sur notre feuille de papier cuisson,
ah oui, il n'y a pas les petits rebords, du coup.
Exactement. Là, on dispose nos oignons. Vous pouvez même ajouter un peu de moutarde à l'ancienne, si vous voulez, à la base. Vous mettez vos oignons et ensuite vous repliez les bords de votre tarte. Et tout simplement, vous enfournez au four à 180 degrés pendant 30-40 minutes. Et quand vous la sortez, elle est encore tiède. Là, vous mettez une burrata. Oh. Vous égorgez au milieu. Un peu de poivre, un filet d'huile d'olive et c'est un délice.
Burrata oignon, en fait.
Formidable.
Ah ouais, vous connaissez
ma soeur l'a fait exactement comme ça.
En fait, je l'ai piqué.
Elle a piqué la recette à ma soeur.
Et ça donne vachement envie d'essayer
et
ça.
Et je vous confirme, je l'ai mangé le week-end dernier, c'est absolument délicieux, c'est très gourmand. Bon, il faut une grande tarte parce qu'on y revient en quelque sorte, c'est assez addictif.
Alors, n'ayez pas peur, elle se délite complètement. Hein. Quand vous servez, ça ne fait pas des parfaites tartes.
Parce que ça mouille la
grande serviette.
Non, parce que la pâte brisée, comme ça, elle se casse un peu. Mais c'est pas grave.
Et puis on a des oignons.
C'est pour ça qu'on l'appelle rustique.
Et de la burrata partout. Qu'est-ce que c'est bon.
C'est absolument délicieux.
C'était la recette du soir. Merci beaucoup, Angèle. Et courez déguster des tartes à l'oignon et plein d'autres très bonnes recettes. Rue Coquillère, Paris 1er, dans la guinguette d'Angèle. Le restaurant à ne pas rater si vous êtes francilien ou de passage. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Rocket man, burning out the fuse out there alone. This is ground control to Major Tom. Allez, la playlist.
Ah, le jingle playlist, parfaitement adapté à la situation.
Jingle adapté.
C'est beau, cette émission.
Pour Philippe Perrin, notre spationauste, grand invité ce soir de RTL. Bonsoir. On passe en musique avec vous, Steven. Une rencontre aujourd'hui avec Sandrine Quétier. Alors, nous, on la connaît comme animatrice de Danse avec les Stars, de 50 Minutes Inside sur TF1. Et puis, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière fin 2017 pour faire de la musique. Et son premier album vient de sortir, ça s'appelle Hard to Follow.
Dur à suivre comme un pied de nez. Certains ont pu croire que Sandrine Quétier faisait sa crise de la cinquantaine. C'était mal la connaître. La musique coule dans ses veines depuis l'enfance. La preuve avec ce premier album assez rock, bien produit, chanté intégralement en anglais. Sur la pochette, juste son nom, Quétier. Comment a-t-elle remisé Sandrine? C'est la question que je lui ai posée.
Ça me titille depuis toujours, la musique. Après, j'ai été embarquée dans une très 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 belle aventure qui a été la télévision, où j'ai passé quand même des années extraordinaires. La musique a toujours été présente à mes côtés. J'ai eu des groupes tout au long de ma carrière à la télévision. Ça n'a jamais arrêté. En revanche, plus les années passaient et plus, un, je faisais un peu la même chose, même si c'était des émissions formidables sur TF1. Et deux, je me disais, ce serait quand même dommage que tu n'essaies pas de faire quelque chose à 100% autour de la musique, puisque tu chantes, tu commences à écrire, donc il y a peut-être quelque chose à faire.
La télé, c'est un rêve pour plein de gens. C'est compliqué d'y arriver.
Ouais.
Quand vous avez annoncé à vos proches à TF1 que vous arrêtiez pour vivre ce rêve, on vous a pris pour une folle ou pas?
Alors, dans mon cercle familial, non, mais il a fallu que je l'explique, mais tout le monde savait que je faisais de la musique et je fais de la comédie aussi. C'était important, j'avais envie de faire du théâtre. En revanche, à la télé, alors une folle, le mot est peut-être un peu fort, mais on s'est dit, qu'est-ce que là, celle-là, elle pète un plomb, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle veut arrêter? Est-ce qu'elle veut nous demander plus d'argent? Est-ce qu'elle veut nous demander autre chose? C'est vrai que c'est difficilement, les gens ont du mal à imaginer qu'on puisse quitter un métier quand ça marche très bien, mais ma passion, elle va au-devant de mon métier. Je ne voyais pas d'autre issue que de tout arrêter pour me lancer à 100%.
La chanson Change, où elle implore la jeune génération de prendre la question climatique à bras le corps.
Et alors, Sandrine Quétier, elle a bien pris son temps quand même avant de publier son premier disque, Steven.
Ouais, il a fallu qu'elle trouve sa voix. Elle avait déjà un groupe de reprises, puis elle en a intégré un autre comme chanteuse. Elle a écrit, composé, elle a pris du temps pour trouver cette couleur en solitaire. Bref, un parcours assez classique de jeune chanteuse.
Alors, je suis encore une débutante. Alors, ça me fait drôle, une débutante d'un certain âge. Mais oui, je pense que ce cheminement, il ne pouvait pas être autrement. Je pense que si j'avais arrêté plus tôt, c'était pas le bon moment. Mais il est clair qu'aujourd'hui, arrivant avec un album avec mon passé d'animatrice télé, les gens vont écouter, pas forcément d'une oreille bienveillante. Il y a cette curiosité qui peut-être ouvre des portes, mais qui finalement n'est pas forcément un atout non plus.
Vous cassez votre image, en tout cas celle qu'on avait de vous.
Et c'est ça,
à la télévision,
parce que là je suis moi.
Avec une couleur très pop-rock et électro, un chant parfois débridé. Il y a aussi des choses beaucoup plus douces dans l'album, je pense à Changes par exemple, très joli titre.
Cet album, c'est l'album vraiment de la liberté. Ce que j'aime, c'est le rock, mais j'aime le rock sous toutes ses facettes. Il y a des morceaux atmosphériques, il y a des morceaux électro, il y a des morceaux plus rock FM, il y a des morceaux plus indé. En tout cas, quand j'étais enfant, que je voyais une Kim Wilde ou une Joan Jett, des nanas comme ça, je me disais, oh, qu'est-ce que j'aimerais être un jour comme elle, mais j'y arriverai jamais. J'étais beaucoup trop timide pour ça. J'étais extrêmement timide enfant. Voilà, je me disais, waouh, les nanas, elles en voient quand même. I am here to stay.
La
La chanson Stay, Kétier chante son besoin de tout contrôler, le sentiment de délivrance, l'importance de vivre sa vie. Elle confie aussi dans un titre avoir vécu dans une bulle.
Oui, dans une bulle. Je me suis pas réveillée un jour en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais de mes 20 ans ?» Pas du tout, j'avais parfaitement conscience de ce que je faisais, mais j'étais dans une petite bulle dorée, moelleuse et confortable.
Vous êtes plus dans la vie aujourd'hui ?
Ah bah, je suis plus dans le dur. Je suis un peu plus dans ma vie, dans celle qui ressemble à ce que je suis, la personne intérieure, si vous voulez. Voilà.
Fallait comme un sacré courage, très objectivement, pour oser ça. Vous gagnez probablement moins bien votre vie.
Beaucoup moins bien, oui. Aucun regret. Je ne sais pas si c'est faire preuve de courage. En tout cas, c'est faire preuve de volonté. Je voulais pas avoir de regrets. Après, des choix de vie, oui, mais ils sont parfaitement assumés.
Honnêtement, la télé, elle vous manque pas ?
Non, la télé me manque pas. J'ai fait mon temps. C'était bien, quoi. J'aurais pas aimé partir en ne plus prendre de plaisir. C'est important de prendre du plaisir dans votre métier.
Donc on ne vous y reverra jamais ?
Non, on n'y reverra pas, non.
Morceau inspiré par la disparition de son père des suites de la maladie d'Alzheimer, Sandrine Kétier chante l'album Hard to Follow et dispo. Elle retrouvera le théâtre l'an prochain dans une pièce écrite par Willy Liechti avec notamment Paul Belmondo et Valérie Mérès.
Et puis une petite info pour terminer, une certaine Clara Luciani repart en tournée. Ah. Elle l'a annoncé à 18h, Steven.
Ouais, 3 ans
moi
après,
je connais ça.
L'album Cœur, écoulé à plus de 400 000 exemplaires, la chanteuse prépare son retour. Elle partage depuis des semaines des images d'elle en studio, preuve que son troisième disque approche. Un premier single ne sera pas dévoilé avant la fin de l'été, l'album à l'automne, et preuve que tout cela est imminent, la jeune maman de 31 ans a annoncé qu'elle repartait sur les routes. Nouvelle tournée qui démarrera le 18 janvier 2025 au Zénith d'Amiens. Une vingtaine de dates prévues, dont une soirée à Paris-Bercy, l'Accor Arena, le 6 mars 2025. Elle en avait déjà fait deux, il y a 2 ans. Il y a fort à parier quand même que c'est que le début, parce qu'une petite vingaine de dates pour la plus populaire des chanteuses de sa génération aujourd'hui.
Tour de France.
Ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Je pense ouverture de la billetterie demain 10h.
Et Steven, on compte sur votre entre gens pour nous offrir 3 places pour qu'on aille voir Clara Luciani.
Vous croyez que je bosse à la Fnac ou quoi?
Non, mais vous connaissez
tout le
monde.
Merci beaucoup, Steven. Philippe Perrin, vous dans l'espace, vous aviez emporté des disques, vous aviez emporté du Gainsbourg, vous aviez emporté du Étienne Dao.
Restez debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles.
C'est notre invité il n'y a pas longtemps.
Exactement, on l'avait reçu Étienne Dao il y a quelques semaines.
C'est pas que en fait, j'ai fait voler son album.
Et ben voilà.
Non, parce que j'ai prévenu personne, moi j'ai fait ça comme ça.
C'était lequel?
Celui où il chante. L'aube d'une nouvelle vie. Là,
le premier jour du reste
de ma vie. Qui me parle énormément, puisque cette histoire de sacrifice, et puis on repart sur autre chose.
Vous l'écoutez à la fin, c'est ça, après la dernière
en fait,
sortie
dans
l'espace.
Oui, dans l'espace, le seul moyen de s'isoler, parce qu'il y a du bruit, il y a du monde, on est tous un peu les uns sur les autres, donc le seul moyen de s'isoler, c'est d'écouter de la musique. Et c'est ce que font les astronautes quand ils ont un petit moment à eux. Et moi, j'aime beaucoup la chanson « La variété française », donc il y a effectivement, il y a Gainsbourg... Il y a Polnareff, il y a Dao.
Et le premier jour du reste de votre vie, c'est une fois que vous êtes
retour
dans la station et que vous dites, allez, cette fois, c'est terminé.
Terminé.
Je vais rentrer, ma famille sera très contente.
C'est ça, j'arrête.
Merci Philippe Perrin d'avoir passé un moment avec nous dans RTL. Bonsoir, c'était un plaisir de discuter avec vous, de partager vos souvenirs en apesanteur, votre livre où vous racontez ce qu'on ressent dans une fusée, ce qu'on ressent en apesanteur, ce qu'on ressent lors d'une sortie dans l'espace. Eh bien, c'est en librairie depuis ce matin. Merci d'avoir été notre grand invité ce soir. On marque une toute petite pause et ensuite le grand quiz de RTL Bonsoir avec un week-end à gagner en famille.
Au Futuroscope, là aussi il y a des sensations fortes.
À tout de suite.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL Bonsoir.
RTL Bonsoir.
Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
Le grand quiz.
Allez, 19h53, le grand quiz maintenant de RTL Bonsoir. Quel est le cadeau ce soir, Cyprien?
Ah, c'est pas mal. Hein. Un séjour au Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants, comprenant l'entrée au parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l'accès au spectacle nocturne, et je peux vous dire qu'il est pas mal. Une nuit en hôtel 3 étoiles en chambre quadruple et les petits déjeuners. Puis alors, vous aurez toutes les attractions incroyables comme celle des tornades notamment, qui est fantastique.
Les règles, s'il vous plaît.
6 questions, 4 bonnes réponses et c'est dans la poche. Tout a été dit depuis 18h dans cette émission. Et comme on est vraiment sympa, vous pouvez demander 3 jokers à Isa ou à Julien.
Quel est l'auditeur avec
c'est
nous
Karl qui nous appelle. Bonsoir Karl.
Bonsoir Karl.
Bonsoir.
Et vous nous appelez d'où, Karl?
Alors, je vous appelle de Castelnau-le-Lez à côté de Montpellier.
D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie là-bas?
Alors, je travaille dans les assurances.
D'accord.
Voilà, et je suis inspecteur commercial.
Vous êtes déjà allé au Futuroscope ou pas?
Alors, j'y suis allé il y a un petit moment, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouvelles attractions depuis.
Bah oui, il y a sans arrêt des nouvelles attractions.
Alors, on va essayer de vous y renvoyer, cher Karl. C'est parti, première question.
Alors, à 18h40, dans l'invité pour tout comprendre, on vous a parlé des vols de voitures, en vous dévoilant un chiffre hallucinant. Combien de voitures sont volées chaque heure en France? Est-ce que c'est 15 par heure, une seule par heure ou 60 par heure?
Alors, du coup, c'est mon domaine, les assurances. Donc, c'est de l'assurance. Donc, on est sur 15 voitures volées par heure.
Oh là là!
Exactement, Karl.
Karl, c'était cadeau, celle-là. Allez, un
deuxième
point.
Deuxième question.
On vous a aussi dévoilé le... Ah bah ouais, c'est trop facile pour vous. On vous a aussi dévoilé le modèle de voiture le plus volé. De quel modèle s'agit-il? La Clio, la Range Rover Evoque ou la Saxo?
Alors, c'est la Clio.
Eh oui, bien joué! Bon, on arrête avec les assurances.
Troisième question.
Si. Dans RTL Inside, on vous a amené à l'inauguration du bassin olympique en Seine-Saint-Denis. Il s'est passé quelque chose de surprenant lors de cette inauguration. Mais quoi donc? Emmanuel Macron s'est mis en slip de bain pour piquer une tête. Valérie Pécresse a confié qu'elle savait pas nager. Ou alors un plongeur s'est rétamé sur le plongeoir au moment de la démonstration.
Alors, le plongeur a glissé, chef.
Bien, voilà,
c'est ça.
Ah, vous avez super bien écouté, Karl. Vous avez
pris
des notes ou pas?
Quatrième question.
Ah, j'ai pris des notes.
Ah oui, d'accord. Non, ça passe dur. Quatrième question.
Alors, il vient de partir du studio, notre grand invité de la deuxième heure. C'était le spationaute Philippe Perrin. Il nous a notamment raconté ses sorties dans l'espace. Combien de Français sont sortis dans l'espace depuis le début de l'histoire? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est un seul? Ou est-ce que c'est 100?
Alors, ça peut pas être un seul.
Ben ouais.
C'est pas possible.
Est-ce que vous en connaissez deux?
100, mais il y a au moins Thomas Pesquet.
Vous avez donc toujours le droit à un joker, hein.
Est-ce que Cyprien...
Ah bah non, c'est moi qui pose les questions.
Non, c'est le maître du jeu.
Pardon.
Je veux bien vous aider,
pardon, excusez-moi.
C'est 10?
Oui, c'est la bonne réponse.
Ah, c'est bon. Gagné.
C'est gagné, Karl.
Super.
Vous partez au Futuroscope.
C'est super cool, merci beaucoup.
4 à la suite, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir repartir avec la montre RTL et le mug RTL, Karl, donc bravo.
C'est génial, merci beaucoup.
Profitez bien de votre week-end au Futuroscope, c'est pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, vous emmenez qui vous voulez.
Allez, au top.
Et bah, très bien. Merci, Karl, d'avoir joué avec
merci
nous.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
À bientôt sur RTL. Merci à vous tous, les auditeurs, pour ces 120 minutes en notre compagnie. RTL Bonsoir revient évidemment demain à partir de 18h. Là, la suite, c'est évidemment Flavie Flamand.
Là, on est en train de me perdre.
Je perds ma voix. C'est la fin de l'émission. Et jour J. Bonsoir, Flavie.
Bonsoir, les amis. Ce soir, en fait, un anniversaire, si je puis dire, puisque cela fera 10 ans demain qu'Anne Hidalgo est officiellement maire de Paris. Alors, on va faire le point avec nos invités et forcément, il y aura des choses à dire. À tout de suite sur RTL.
À tout de suite.
RTL.